Alors vous écoutez Radio Grand Papier, l'émission de bande dessinée sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Bonsoir Thalie.
Bonsoir Johanna.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Alors dans une semaine débute le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. L'équipe de Grand Papier y sera pour récolter une série d'interviews. Et on s'est aussi dit que ce mois-ci, au lieu de chroniquer des nouveautés, on allait parler fanzine. Parce que s'il y a bien un lieu où on peut espérer faire de belles trouvailles, eh bien c'est pendant le Festival d'Angoulême. Plus particulièrement au FOF, qui est en fait le festival de la micro-édition indépendante, en marge du festival officiel, avec une programmation un peu spécifique des concerts, des expos. Bref, histoire de vous donner goût à tout ça, place aux fanzines. Et puis en deuxième partie d'émission, toujours en connexion avec ce fameux festival, eh bien, nous accueillerons l'employé du mois, une structure d'édition bruxelloise dont on parle régulièrement, mais que nous n'avons jamais, finalement jamais entendu dans cette émission en tant que structure. On ne pouvait pas ignorer leur actualité puisqu'ils fêtent leurs 15 ans d'existence avec une exposition à Angoulême et un collectif tout spécialement édité pour l'occasion. Voilà. Avant de commencer, impossible de ne pas dire deux mots à propos de Charlie Hebdo et des terribles actualités qui nous ont secoués mercredi passé et les jours qui ont suivi. Autant vous dire que la réunion Radio Grand Papier qui avait lieu mercredi soir s'est déroulée devant la télé avec les yeux un peu rouges. Alors, comme dit l'auteur Morvandio, justement un auteur de bande dessinée, comment ne pas se taire sans participer soi-même au bruit parasite qui brouille les ondes et l'appréhension claire de la situation ? Difficile en effet. Alors j'ai repensé au texte de Baudrillard qui inaugure les écrans de Ristorcelli dont on a parlé ici il y a deux mois, qui est aussi le travail autour d'un traumatisme. C'est un texte qui a 20 ans et qui est toujours autant d'actualité. Alors, nous avons l'impression que l'information est fluide, qu'elle passe par des réseaux, qu'elle circule, c'est sa définition. Mais en réalité, elle tombe. Et là où elle tombe, elle reste, parce qu'elle n'est plus transfigurée, métabolisée, etc. On parle de déchets industriels, évidemment, et matériels, mais il y a un énorme déchet informatif, communicatif, informationnel, qui est aussi une masse inerte. C'est une force d'inertie, en quelque sorte, qui pèse sur l'événement même. Alors, soit par accélération, soit par inertie, l'histoire a bien du mal à passer au travers, au sens où elle ne peut exister que s'il y a à la fois, bien sûr, une énergie et une volonté historique. Une possibilité de représentation de l'histoire, et c'est celle-là qui nous échappe un peu aujourd'hui. Les éléments qui forment l'histoire, y compris le récit qu'on peut en faire, parce qu'il n'y a pas d'histoire sans récit, sans possibilité de la narrer, de la réciter, nous échappent un peu aussi parce que l'information s'empare trop vite de ce qui se passe. Cela passe de plus en plus par l'image et non plus par le texte, ou par des mémoires écrites, ou très peu. Et c'est trop fugace, trop volatile. Et cela se dilue dans un espace qui n'est plus tout à fait le nôtre. 20 ans. Bizarre. Voilà. Alors, pour un peu clôturer ça, eh bien, je vais passer la parole à Nicolas Verstappen, qui nous parle de Thaïlande, parce qu'il va à son tour un peu parler de Charlie Hebdo et qu'on ne va pas passer la soirée dessus, qu'il le fait très bien avec sa voix douce et sage. Et puis, dans sa rubrique « Ma vie en cela », je vous découvrirai aussi d'autres choses. Voilà, je vous enjoins à aller voir sur Radio Grand Papier sa rubrique, puisqu'il fait beaucoup référence à des choses qui sont sur Internet et les liens sont directement dans la rubrique.
L'actualité de cette dernière semaine a malheureusement été marquée par l'attentat contre les bureaux de Charlie Hebdo et l'exécution de plusieurs dessinateurs de presse et auteurs de bandes dessinées, de membres de la rédaction du journal, d'employés, de policiers et d'otages. Ces événements tragiques ont rapidement donné lieu à de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Des hommages et des dessins d'actualité se sont multipliés, exprimant la sidération, l'indignation, la douleur et souvent aussi le besoin de rire, malgré tout, pour rendre supportable, pour affirmer sa solidarité envers une profession ou la liberté d'expression de manière plus large. J'ai choisi de présenter une trentaine de ces illustrations à la fin du post lié à cette capsule de la rubrique « Ma vie en slash ». Vous pourrez retrouver une planche de Joey Sacco qui pose une réflexion sur la satire, une magnifique illustration de Domenico Rosa ou un dessin de Fabrice Caro qui m'aura vraiment fait marrer, je le remercie encore. On retrouvera également Erwan Obion, Victor Husneau, Edmond Baudouin, Gilles Rochier, Jason, Jean Bourguignon, Manane Yastani, Robert Crumb, Marion Fayol, Julian Choi, Zepp, Lewis Trondheim, Loïc Sécheresse, Thibaut Soutier, James, Jorge Gonzalez et quelques autres. J'ai fait une sélection de dessins qui m'ont touché, qui m'aient fait rire, qui m'aient ému, qui m'aient donné à réfléchir, qui m'aient permis de canaliser mes propres sentiments ou qu'ils soient parvenus à faire tout cela à la fois. Je me suis demandé si la présentation de ces dessins était appropriée. J'étais, et je reste, partagé vis-à-vis d'une partie de la ligne éditoriale récente de Charlie Hebdo. Mais voilà qu'une immense plaie est ouverte et qu'elle sent déjà la gangrène. Cette plaie, il va falloir la panser, et la panser. Et finalement, cette sélection de dessins fut pour moi l'occasion de commencer à mettre en action ces deux verbes homophones. Puisqu'il fut question de liberté d'expression, j'enchaînerai avec la présentation d'une courte vidéo consacrée à Bill Teo, fondateur de la librairie Comics World à Singapour. Ayant fait un récent voyage sur place, j'ai eu la chance de rencontrer ce libraire septuagénaire au parcours atypique. Entré dans la police à l'âge de 19 ans en 1952, il fut rapidement appointé au service de renseignement singapourien, où il devra vérifier et censurer si nécessaire le contenu de publications étrangères. Censeur de comics, il finira par se prendre de passion pour la bande dessinée et ouvrira en 1987 la boutique Comics World, qui est aujourd'hui la plus ancienne librairie spécialisée de l'île. J'ai partagé sur le site le lien vers la page du Comic Book Legal Defense Fund présentant la vidéo et le portrait de Bill Teo. J'ai également placé un lien vers le documentaire Comic Book Heaven de E.J. McLevy-Fisher. Le réalisateur y dresse le portrait touchant de Joe Lesner, un libraire octogénaire qui décide de fermer sa boutique située dans le Queens à New York. Au fil de la liquidation du stock de cette librairie de comics, on suit ce personnage bougon qui a assisté aux diverses transformations et à l'érosion d'un marché. On y découvre aussi et surtout, par touches successives, la part plus intime de son parcours et son appréhension face au vide qu'il devra bientôt combler. Je terminerai cette capsule en présentant une excellente bande dessinée numérique que j'ai découverte grâce à Max Etali. To Be Continued est un webcomic qui se décline sous forme de chapitres publiés de façon hebdomadaire, sauf léger retard. Lorenzo Ghetti, qui assure le scénario et le dessin, et Carlo Trimacchi, qui s'occupe de l'aspect numérique, sont tous deux italiens et présentent leur série comme étant une bande dessinée à propos des doutes, des frustrations, des espoirs et parfois des super-pouvoirs. To Be Continued ne serait donc pas une bande dessinée consacrée au genre super-héroïque, mais plutôt à l'utilisation de ce genre de façon métaphorique, comme prétexte pour évoquer le questionnement de l'adolescence. Suivant le quotidien d'un groupe de jeunes étudiants inscrits à la School of Powers, cette série m'a fait songer à la série Powers de Brian Michael Bendis et Michael Avon Oeming, tant pour son graphisme synthétique que pour les échanges dialogués dynamiques dont Bendis avait le secret. Enchaînant les répliques par chapelet de phylactères, les auteurs italiens vont exploiter à merveille l'outil du scrolling. Le défilement du mur numérique leur permet d'introduire au travers de cet effet de travelling de nombreux éléments narratifs dans les arrière-plans de l'image. Au-delà des effets de défilement qui se feront de manière verticale, horizontale, en diagonale ou dans le zigzag très réussi du 10e épisode, les auteurs utiliseront également le turbo-média dans le 11e épisode. Le 6e épisode sera quant à lui présenté sous la forme d'un court-métrage d'animation. Le 5e épisode jonglera alternativement avec des effets de rotation de 180 degrés pour donner à suivre un entretien de part et d'autre d'une table et des effets de zoom pour suivre une seconde conversation qui se déroule à l'arrière-plan. Le 12e épisode se présente sous la forme d'un mur Facebook où le lecteur est invité à faire défiler le profil du personnage et la discussion de groupe qui l'y tient. L'épisode 9 joue sur une vue aérienne des couloirs de l'école où déambulent les apprentis super-héros. Les contours des salles de classe deviendront autant de cases où l'on suit, en plan rapproché, la discussion que les élèves tiennent dans le couloir. Récit divertissant, personnages adolescents bien campés, To Be Continued recèle donc de très belles trouvailles visuelles et en promet de nombreuses autres. Cette série existe pour le moment en version italienne et en version anglaise et vous pouvez retrouver le lien sur le site de Radio Grand Papier. Voilà, sawadee krap les amis.
Voilà, merci Nicolas.
Juste un tout petit mot sur la BD numérique dont Nico vient de parler, donc To Be Continued, dont la deuxième saison en fait a commencé aujourd'hui même. Voilà, donc ça vaut le coup d'aller sur le site en question parce que je trouve que la BD numérique y prend vraiment tout son sens. C'est hyper bien foutu.
Stéphane, tu voulais redire quelque chose vite fait à propos de Charlie Hebdo?
Non, mais j'en parlerai au moment d'introduire mon propre...
Ah bon, d'accord. Eh bien, écoutons alors un peu de musique. Nous allons écouter Waxahachi, le groupe. Le morceau s'appelle Lips and Limbs. Voilà, alors on va parler fanzine, comme on a dit en introduction. On va commencer avec Tali.
Ouais, alors moi je vais vous parler d'une jeune Allemande, Joséphine Ritschel. Cette jeune Joséphine habite à Berlin. Elle est née à Potsdam en 1986. Elle a étudié l'illustration à l'Université des Arts de Berlin. Elle fait aussi partie de la bande de Treasure Fleet, avec l'accent, qui est une plateforme en fait de distribution de mini-comics et de fanzines qui permet quand même à pas mal de petites structures et de d'auteurs qui s'auto-éditent d'être diffusés par leur site internet et d'être présents sur des festivals. Treasure Fleet, ils sont chaque année à Angoulême et dans plein d'autres festivals européens. Dans cette bande, on retrouve des auteurs dont on a déjà parlé ici, comme Aïcha Franz, bien sûr, avec laquelle il y a vraiment une connexion avec le travail de Joséphine. Il y a aussi Paul Patzold dans cette bande qui a publié des histoires dans les Dopututo, chez Misma notamment. Ben voilà. Alors oui, Joséphine, elle autopublie ses fanzines depuis plusieurs années. Elle fait aussi de l'illustration, l'illustration pour la presse. Elle a publié des images, notamment dans le New York Times. Elle a aussi collaboré avec différentes revues, avec Nobro, avec Strazapine, avec Nyctalope aussi. Et en 2014, est paru chez l'éditeur italien Canicola son premier livre, qui n'a pas encore été traduit dans une autre langue, à ce que je sache, qui s'appelle « Solitudine ». Alors moi, j'ai découvert son travail par son fanzine Oasis, le premier tome qui est paru il y a quelques mois. C'est un récit de 48 pages en noir et blanc, dessiné au crayon, avec une très jolie couverture imprimée en rhizos verte et violette. Alors l'histoire, elle n'est pas facile à raconter. en fait, elle est centrée, enfin, en tout cas, le début, la première partie est centrée autour du personnage d'une femme dont je viens de me rendre compte qu'elle n'a pas de nom, puisque son nom n'est jamais cité donc, à aucun moment dans le récit. Donc, on va juste parler d'une femme qui s'installe avec son mari à la campagne. Alors, c'est la vie au grand air, le jardinage, tout est beau, tout est joli, jusqu'au moment où son mari tombe malade. Elle commence à découvrir des animaux morts dans son jardin. Son mari finit par mourir, puis c'est son enfant, puisqu'elle est enceinte, qui meurt lui aussi, et elle se retrouve un peu seule au monde. Et petit à petit, elle fait quand même le lien avec des avions d'épandage qui survolent les champs autour de sa maison et qui seraient peut-être responsables des troubles de santé liés à sa famille. Et elle décide d'enquêter. Alors là, c'est vraiment la deuxième partie de récit qui commence. Après, quelque chose de plus introspectif et quand même assez dramatique, on arrive dans une partie un peu ça dépote, quoi. Il va se passer plein de choses, puisqu'après avoir rencontré un scientifique à qui elle fait analyser une graine et qui lui parle d'une multinationale en fait qui posséderait un peu toutes les graines du monde, quoi. Donc il n'y aurait plus vraiment moyen de s'alimenter autrement que via cette grosse multinationale qui fournit à la fois les graines et les pesticides qui serait à l'origine de la mort de sa famille. Elle enquête et elle finit par voyager à travers le monde entier pour retrouver des banques de graines qui sauveraient un peu l'humanité. Et là, on passe vraiment dans le récit de série B, quoi. Donc, c'est un peu rebondissement sur rebondissement. Il y a des gros méchants de la multinationale qui essayent de l'arrêter à tout prix, qui mettent le feu à différents endroits. Voilà. Et carrément, à la fin, ça s'ouvre carrément sur de la science-fiction, puisque ça va partir un peu dans un voyage dans l'espace. Et moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans ce récit, c'est cette espèce de mélange des genres un peu bancal, un peu tout bizarre. C'est-à-dire qu'elle arrive à mélanger comme ça des éléments de SF, de mauvaises séries télé, avec des dialogues toujours un peu au premier degré. Il y a un côté très premier degré, même dans les attitudes de ces personnages. Il y a une espèce de naïveté, je trouve, qui se dégage de son travail. Alors, le dessin est, c'est un peu semi-réaliste, quoi. Les personnages sont dessinés, ils sont très figés, hein, quand même. Ils sont un peu robots, comme ça. Ils n'ont pas toujours beaucoup d'expressions sur le visage, mais je trouve que ça...
Il y a un côté un peu appliqué,
un certain
en fait.
Charme. Oui, c'est ça, elle s'applique. Et je pense qu'elle aime beaucoup, elle le dit elle-même, qu'elle aime beaucoup dessiner les bâtiments. Et il y a quand même des assez belles planches, des doubles pages.
Il y a plus de charme dans ses décors et dans ses architectures que dans ses personnages.
Quand elle dessine les bâtiments et les plantes, les forêts, c'est vraiment assez beau. C'est vraiment un univers très étrange, très bizarre. Et en même temps, derrière tout ça, on sent qu'elle veut quand même faire passer un message. Il y a un propos, peut-être presque politique ou en tout cas écologique, qui parle de...
Oui, parce qu'elle termine son fanzine en disant qu'il faut manger, faut faire ses propres...
Grow your own food in your garden and don't buy hybrid seed or genetically modified seed. Donc c'est un fanzine, je ne l'ai pas dit, mais donc qui est écrit
en anglais.
Hein. C'est pas en allemand, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Voilà, donc on peut tout à fait le commander sur son site. Elle a aussi, précédemment à ça, écrit un autre fanzine qui m'a bien fait rire, qui s'appelle The X-Files Slime and Bugs. Et là, c'est une pure parodie en fait, de la série X-Files. Donc là, elle s'amuse vraiment avec la science-fiction, dans une histoire dans laquelle Scully et Mulder sont plus ou moins amoureux de l'un de l'autre, et Mescoli n'est pas vraiment celle qu'elle prétend être. Il semble qu'elle vienne d'une autre planète, finalement. Voilà. Donc moi, je vous encourage vraiment à lire son travail, c'est assez intéressant, c'est assez inédit. Et vivement la suite d'Oasis, qui, j'espère, paraîtra très bientôt.
Mais c'est vrai qu'au niveau dessin, c'est pas très éloigné d'Aïcha. Bon, à la fois, il y a plein de choses différentes, mais pour quelqu'un qui découvre un peu cette manière de dessiner, c'est quand même très proche. Et il y a effectivement beaucoup de naïveté dans le récit. Nous, on donne cours avec Stéphane à des étudiants qui ont tendance à écrire ce genre de scénario où d'un coup, un personnage qui n'a pas d'autre activité dans la vie que de jardiner et de faire pousser sa famille, d'un coup devient le super-héros du truc et est capable de faire des escalades et de contrôler un hélicoptère et de mener des enquêtes. Par exemple, cette femme, à un moment, elle se met à voyager de manière folle et tu dis, mais enfin, mais quoi. Donc, au niveau crédibilité, c'est limite, mais en fait, ça. Voilà, peut-être que. C'est juste c'est une manière. Je sais pas, il y a un charme qui fait que ça passe. Et.
Oui, ça tente en effet de raconter des choses avec un propos et du coup, ça se voit tout de suite quand on voit des gros pavés de texte dans des bulles. On se dit, OK, il y a du message qui passe. Et de fait, on a ça et en effet, il y a une incohérence qui va avec. Elle a justement un ami qui est professeur et qui est éminent et qui diagnostique tout de suite le problème hyper pointu qu'ont les graines de la société, qui est une forme de Monsanto qui ne se dit pas. Et elle connaît l'existence de ce fameux endroit où on sauve les graines, vous savez, qui existe réellement. Il y a des grands projets de sauvegarder l'ensemble des graines, donc ça parle de ça. Donc, mais en même temps, il y a cette espèce de générosité et cette façon d'aller de l'avant dans le récit qui est assez caractéristique de la jeune génération et qui est toujours hilarant et prometteur, en fait. On se dit que, en effet, les décors qu'elle dessine sont beaucoup plus beaux que quand elle essaie de faire des éléments comme des bagnoles ou des vues un peu chiadées sur des personnages qui pleurent, mais c'est assez prometteur dans l'ensemble. On a envie de voir la suite et on a envie de voir même la suite de Oasis 2.
Et puis c'est agréable de voir des gens qui n'ont pas peur de se lancer dans des récits d'aventure. Quand on voit Brigitte et la perle cachée d'Aïcha France, justement, c'est... Ça se lit hyper bien, donc voilà. Moi, je suis plutôt contente de lire ça quand même. Absolument. On continue avec toi, Stéphane.
Oui, tout à fait. Alors, on reste dans le fanzine, on reste même dans le même médium, puisqu'il s'agit d'un fanzine qui a été imprimé, en tout cas pour la couverture, en rhizo de passage. Il s'agit de Lézard Laughed, donc le lézard riant.
De nouveau en anglais.
À nouveau en anglais et publié par un jeune auteur qui s'appelle Noah Van Skiver, pardon. Avant ça, moi j'avais voulu introduire un petit peu ce truc, comme j'avais dit tout à l'heure, en parlant un tout petit peu de justement du fanzina et de Charlie, en disant que la liberté d'expression est toujours liée au pouvoir. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qui fait qu'Éric Zemmour a accès à la liberté d'expression ? C'est qu'en fait, il a accès aux médias et il a accès à un pouvoir par la même. Il se fait inviter encore et encore, et plus il est polémique, et plus il occupe le devant de la scène, et plus il détermine par où peut aller un débat. Zemmour pose des questions crétines, et il faudrait poser d'autres questions, mais il se trouve que c'est lui qui est au devant de la scène, donc c'est lui qui, dans le fond, infléchit. C'est un gros problème de la droite depuis une bonne trentaine d'années, c'est qu'elle monopolise les sujets de société et que la gauche ne fait que ramer derrière en sauvegardant des choses. Il est temps que la tendance s'inverse. Et dans cette tendance, elle ne s'est pas inversée avec des gens comme Charlie, puisque le point de vue de Charlie sur l'islamisme fait partie d'une culture dominante. L'islamisme, c'est pas bien, etc. Donc autant on peut être Charlie, autant il faut quand même dire qu'il y avait des dérives dans la manière dont fonctionnait Charlie ces dernières années. Bon, je n'étais pas du tout d'accord avec la manière dont c'était mené. Ça n'empêche que, de nouveau, on compatit avec la douleur. Moi, quand est arrivé cet événement, j'ai repensé à la gueule qu'a dû faire Cabu quand un mec a débarqué avec une mitraillette. Et l'idée de ce visage qui devait se dire « merde ». Me faisait monter les larmes aux yeux. Mais il n'empêche que voilà, la position de Charlie en matière d'islamisme était relativement mainstream. Et ils n'ont pas vu ça. Ils croyaient qu'ils continuaient à être une minorité. Or, la minorité, c'est important. Et c'est pourquoi nous, on veut parler de bande dessinée ici et de fanzina. Le fanzina, c'est une voix minoritaire. On ne s'intéresse pas ici à des auteurs inconnus qui bientôt seront connus, des auteurs inconnus qui seront bientôt mainstream. On parle d'auteurs inconnus qui resteront minoritaires. Et ce qui est intéressant, c'est de parler des minorités. Et c'est pour ça que le fanzina fait partie de ces voix qu'on aime porter ici dans cette émission. Alors, parlons maintenant de Lézard Laughed. Et donc, c'est un petit récit, 28 pages, sur un papier jaune, imprimé en noir à l'intérieur, bichromie à la Rizeau sur l'extérieur. La Rizeau, on en parle régulièrement, donc on peut faire un petit point technique. La Rizeau, c'est une machine qui a été inventée pour faire la communication interne des entreprises. Contrairement à la photocopie, c'est une encre qu'on trouve à l'intérieur. Et on a un système de master, c'est-à-dire que la machine fabrique une espèce de typon avec lequel elle peut imprimer toute une série de pages. Avec un système de centrifuge, l'encre passe à travers une espèce de petite papier perforé pour imprimer la feuille. Ça permet d'avoir une encre et donc c'est du ton direct. Donc ça veut dire qu'on a un nombre très, très limité de couleurs, une 15-16 dans mon souvenir, je crois même que c'est 14 des tons. Donc on choisit une gamme de tons et moyennant quoi on peut faire des bichromies, des trichromies. Il y a des choses très très belles qui sont faites ces dernières années avec ça. Il y a un regain pour cette machine qu'on peut acheter pas trop cher et donc ça veut dire qu'un petit atelier peut l'avoir en interne et commencer à produire sur cette base. Alors avec cette machine a été produit ce bouquin. Alors qu'est-ce que ça raconte ce bouquin ? Eh bien, ça raconte l'histoire de Harvey. Et Harvey, il reçoit, c'est un mec, il est un homme mûr, et il annonce à un pote, en fumant un gros pétard sur une montagne, il habite au Nouveau-Mexique, qu'il va recevoir la visite de son fils, Nathan, qui en fait, il n'a pas vu depuis un bon paquet de temps, puisqu'il n'a plus vu depuis qu'il a quitté la femme avec qui il a fait cet enfant, et l'enfant avait 9 ans. Et depuis, il ne l'a plus vu. Et quand cet enfant arrive, eh bien, c'est non pas un enfant, mais c'est un gars de 25-30 ans qui débarque. Et du coup, il se découvre, il y a un usage social qui est là, ce n'est pas des gosses, donc ils se disent bonjour, comment ça va ? Harvey propose à son fils d'aller faire une balade dans le Nouveau-Mexique, puisque quand on reçoit un mec et qui vient pour la première fois, un peu comme à Bruxelles, on l'emmène au marché aux puces, et bien là, on l'emmène faire une balade et lui montrer la beauté de la nature du Nouveau-Mexique. La chose est faite, et en partant, il raconte des anecdotes et il l'emmène à un endroit où il y a un énorme rocher qui s'appelle le Lézard Riant, qui est associé à une espèce de récit mythique indien qui dit que c'est un lézard qui a provoqué les dieux et qui s'est fait figer dans le roc. Et au milieu de tout ça, à un moment donné, quand même, Nathan prend ses couilles à son cul et dit « Pourquoi t'étais barré ? Pourquoi t'as été aussi égoïste et que tu nous as laissé ?» Chose à laquelle, très rapidement, son père répondra « Écoute, il y a beaucoup de choses que je voudrais refaire, mais tu sais, devenir un adulte, et maintenant tu es un adulte, ça veut dire pardonner à ses parents et cesser de les blâmer pour faire sa propre vie. » Et point. Et la discussion reprend. Et donc, tout ce récit est concentré sur quelques petits points. Il reste une chute, évidemment, que je ne dévoile pas ici pour garder quand même un peu de force à ce récit. Elle est pas mal. Mais la force de ce récit, c'est de parler de tout à fait autre chose et d'amener des points de conflit de manière tout à fait douce, en mi-teinte et de manière donc très réaliste, puisque ce récit, en fait, alors qu'il est une fiction, il y a vraiment quelque chose dans sa construction qui est très très réel. Ce qui est assez rare dans ce genre d'exercice, un fanzine de 28 pages photocopié et risoté comme ça, parle d'un récit qui pourrait être un court-métrage, voire un long-métrage indépendant américain. Donc il y a vraiment une densité dans ce récit qui est assez belle. On va peut-être parler un peu du dessin. C'est un dessin qui est assez beau, qui est au trait, avec des hachures, beaucoup de hachures, et qui hésite, et c'est intéressant, qui oscille plutôt entre quelque chose de réaliste et de quelque chose de plus synthétique. Des personnages parfois dessinés avec très peu de traits, et parfois de manière beaucoup plus rendue, avec beaucoup plus de précision, notamment pour gagner dans les expressions, gagner en force et en expressivité. Donc il dose ses efforts de telle manière à pouvoir à la fois aller vite et par moments pouvoir appuyer sur des émotions particulières, ce qui est très très malin de sa part. On peut comparer ça pour les gens qui connaissent un peu la production de l'employé du moi à Yoon Lockhart, par exemple, qui a cette même façon de pouvoir donner à certains moments de la précision et à d'autres moments de la relâcher pour tracher des pages de manière beaucoup plus rapidement. Alors, on va parler un peu de l'auteur aussi. Donc, Noah Van Sciver est un auteur américain qui... On ne sait pas très bien où il vit probablement autour de Denver, ça, je n'ai trouvé l'information nulle part. Et il est né en 84, il a commencé en 2006 son entrée dans le circuit avec Blamo, qui était un fanzine d'abord photocopié et puis entre-temps publié au format américain traditionnel. Vous voyez ce format un peu vertical dans lequel on retrouve aussi les Batman et tout le reste, qui est adopté par la plupart des auteurs underground parce que c'est plus facile de mettre leur boulot dans les librairies. Et Blamo, on est à son numéro 8 maintenant. je crois, et il a gagné pour le numéro 6 un IGNATS Award. Comme vous le savez, l'IGNATS, c'est un espèce de prix qui est donné, notamment beaucoup de prix sont donnés à des fanzines, beaucoup d'auteurs très prometteurs l'ont reçu. Et il a participé aussi en 2011 au fameux, comment s'appelle encore cette revue américaine, The Best American Comics. Qui est une espèce d'almanach qui sort une fois par an, qui est dirigé par un auteur particulier qui fait sa sélection dans la production de l'année et fait comme ça ressortir des jeunes auteurs. Donc voilà, il a été remarqué. Entre-temps, il a fait aussi un bouquin assez étrange que j'ai juste survolé mais que je n'ai pas lu, qui est sorti aux États-Unis, qui s'appelle The Typo de Melancholic Young Lincoln, qui est une forme de biographie de Lincoln des années 1837 à 1842, un truc très très précis. Il a rencontré pas mal de succès aux États-Unis, dans la sphère underground évidemment, mais aussi il a été sélectionné, mis sur des sites comme sélection de l'année, ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui peut attaquer des récits d'assez longue haleine. Si vous lisez Blamo, qui est son fan, qui doit pouvoir être commandé facilement sur son site, eh bien, il y a des récits assez larges dans leur spectre. Il y a quelque chose qui est hérité de Daniel Klaus dans la manière dont il mène ses histoires, mais sans le côté absolument cynique et parfois désespéré de notre ami Daniel Klaus. Donc, c'est une belle fusion avec quelque chose un peu plus enthousiaste. Notamment ici, je tombe dans le numéro 7 sur un récit qui est un récit autour d'Halloween. Et je me souviens d'un très beau récit de Daniel Klaus sur Halloween. Donc voilà, il travaille sur les mêmes thématiques, qui est une thématique assez courante, hein, certes, mais avec la même impression de légère tristesse et de faire un peu le point sur qu'est-ce que ça devient quand on devient un adulte et qu'on continue à faire Halloween. Assez beau, donc. Voilà, donc c'est un auteur à suivre. Il a deux sites web sur lesquels il a un Tumblr plus une forme de WordPress dans lesquels il publie une série de choses. Et surtout, on peut trouver l'ensemble de son boulot sur Oily Comics. On parlait tout à l'heure de Treasure Fleet, qui est un site qui regroupe une série d'auteurs. Eh bien, Oily Comics, c'est un peu une initiative de faire ça aussi, puisque c'est une initiative qui a été lancée par notre ami Charles Forsman, si je me souviens bien. Je ne me gourre pas, hein. Et sur lesquels on peut trouver un bon paquet d'auteurs qui publient du fanzina, et du fanzina de vachement bonne tenue. Donc on peut trouver là de Lizard Lout, de Noah Van Skiver, mais aussi d'autres boulots d'auteurs assez intéressants.
C'est intéressant de dire qu'en fait, c'est bien Oily Comics qui les publie, qui les imprime et qui propose les abonnements ou la vente en ligne via son site, et que Oily Comics publie aussi maintenant des traductions de fanzines d'auteurs francophones dont on va parler dans pas longtemps, puisqu'ils traduisent les bâtards de Max de Radiguès et les nus de Sacha Gurg. Donc ils sont disponibles aussi sur des jolis papiers de couleur avec des belles couvertures en réseau.
Magnifique.
J'avais aussi juste envie, moi, de reparler deux secondes de Blamo, parce que ce qui est assez amusant, c'est que Blamo, en fait, n'est pas auto-publié, mais est publié par une librairie de Denver. Donc c'est une petite librairie qui s'appelle Kilgore, qui est une librairie de livres d'occasion et de bandes dessinées indépendantes, et qui publie un peu les fanzines de leurs copains. Donc c'est je trouve une chouette initiative de la part de libraires de soutenir et de mettre un peu de sous dans la publication comme ça de ces comics underground.
Absolument.
Mm-hmm. Alors je précise que sur le site, j'ai bien mis tous les liens pour aller acheter en ligne la plupart des fanzines dont on parle. Parce que c'est pas le tout de vous en parler, si vous pouvez pas vous les procurer, c'est un peu dommage. Alors moi, je reviens en fait sur... Parce qu'autant vous avez parlé d'actualité, moi je reviens sur plutôt quelque chose qui s'est un peu terminé, je pense, maintenant. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait que vous n'allez probablement pas les trouver en Angoulême, mais vous pouvez les trouver sur Internet. Mais moi, c'était ma collecte quand j'allais à Angoulême. C'est un peu de tout ce que j'ai... Parce que voilà, c'est clairement, Angoulême, j'achète du fanzine et pas des livres. Et ça reste mes préférés. Et donc, j'avais envie de parler du journal de Judith et Marinette. Donc, c'est un fanzine qui a été édité par une petite structure éditoriale rennaise qui s'appelle Les Taupes de l'Espace, qui a été lancée par trois auteurs, Sébastien Lumineau, Fab et Tofepi. On remarquera qu'il y en a deux qui se cachent derrière des pseudos. Et c'est donc voilà, une aventure pas toute récente, puisque la structure a commencé à exister, si je dis pas de bêtises, en 92 ou 93. Et le premier fanzine, le journal de Judith et Marinette, a été imprimé en 99, pour cesser quelques numéros plus tard. Puis en 2005, la série redémarre sous un nouveau nom, le nouveau journal de Judith et Marinette, qui est dans l'absolu pas tellement différent et à la fois qui change un petit peu. Le nombre de participants augmente, ça change un petit peu de format. Et donc il y a 17 numéros de cette série-là qui sortent et le dernier date de 2010. Et a priori, il ne se passe plus grand-chose depuis au Taupe de l'espace. Alors dans la première salve, on a plutôt des récits un peu de campagne comme ça, un peu autobio, parfois des fictions. Alors avec Stéphane, on parlait de la famille Caroulet, qui est donc la série de Tofépi, qui est l'histoire d'une famille populaire qui est super bien, qui est donnée avec beaucoup de tendresse et qui se suit avec un grand plaisir. Alors plus tard, plus ou moins au même moment, en 99 aussi, les Taupes de l'espace édite d'ailleurs Putoche, qui est en fait qui regroupe tous les récits de cette famille Caroulet. Ça se lit vraiment super bien. Et alors, moi j'ai relu ça du coup récemment pour en reparler à la radio. Et parfois, quand on regarde avec quelques années des fanzines qui datent et qu'on voit les premiers boulots de certains auteurs, c'est pas toujours très heureux. Des fois, on mesure le chemin parcouru et on se dit quand même, c'est mieux maintenant. Et ce qui me fait toujours plaisir avec Judith et Marinette, c'est que je trouve que dès le début, c'est super bien. Autant au niveau des récits que du dessin, et que ça vieillit vraiment bien, quoi. On a autant de plaisir à le lire maintenant. Je pense surtout aux auteurs comme Sébastien Lumineau et Tofépi, qui dès le début sont capables de changer de registre hyper souvent au niveau de ce qu'ils racontent. Ça peut être de l'autobio, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on peut être dans la fiction. Ils ont même fait un numéro spécial aventure, qui est vraiment chouette. On voit des gens comme Nils So se mettre à faire des choses finalement très différentes de ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, et c'est déjà très très bien. Et donc voilà, on voit aussi des Florent et Rupert qui sont... moi je trouve que c'est leurs planches les plus drôles. Alors c'est plutôt dans le nouveau...
Florent et Rupert.
Ah ça y est, j'avais noté Florent et Rupert, je m'étais dit si tu corriges pas tu vas te planter, et donc voilà, je me suis plantée. Rupert et Mulot évidemment, oh là là.
Et je donc, pense qu'il faut leur proposer de se rebaptiser parce que c'est trop bon.
Florent et Rupert, mais je suis pas sûre que ça leur plaise. Et ben n'empêche que voilà, dans le nouveau journal de Judith et Marinette, on les recroise très très souvent d'un numéro à l'autre, et je pense que c'est là où ils me font le plus rire. Et c'est marrant parce qu'on voit aussi des gens qui n'ont pas bougé, comme Jonathan Larabie, enfin pas ou peu bougé, comme Jonathan Larabie et Rémi Lucas. Non, mais c'est déjà très bien, mais c'est marrant parce que moi j'étais frappée par les petites aventures de Nils So. Quand je vois le travail qu'il fait aujourd'hui, il y a beaucoup de clarté, par exemple, dans ses premiers récits. Et puis voilà, ça s'est affiné avec le temps. Et même si on le reconnaît tout de suite, c'est super différent, mais je trouve ça hyper, hyper chouette de revoir tout ça. Et surtout, ces fanzines regroupent une série d'auteurs qui sont trop rares, en fait, qui sont hyper discrets. Des gens comme Larabie, Laurent Dandois, David Libens, Jean-Jean, Garen, Tony Papin, Nils So ou même Alice Lorenzi sont des gens qui, après plusieurs années, n'ont pas forcément persévéré, je ne sais pas. Je pense que c'est des gens qui dessinent toujours, mais c'est pas des gens qui ont fini par faire des albums et dont on parle sur tous les sites, quoi.
D'ailleurs, on fait un appel en fait au Taupe de l'espace pour qu'ils relancent le journal de Judith et Marinette.
Bah, peut-être, s'ils le relançaient, moi je serais contente.
Alors, on le dit à chaque fois, à chaque Angoulême, on dit mais putain, qu'est-ce que vous faites ? Ils disent ouais, on a le projet de relancer.
Ah
mais...
bon ?
Ouais, mais on ne sait pas. On parlait de voix minoritaire tout à l'heure, c'est exactement ça, quoi. On est cette espèce de sous-marin que Judith et Marinette, ils renaissent, ils remeurent, ça replanche sur une renaissance et ils ont fait des choix assez audacieux. Je me souviens qu'à une époque, ils ont essayé de faire un truc dans lequel les récits étaient splittés sur plusieurs plages, mais il y avait plusieurs
récits. Oui, c'est le numéro 1 et les derniers numéros sont comme ça. Ouais.
C'était à la fois hyper audacieux, un peu n'importe quoi, mais quand même assez marrant. Et donc, il y a ça, le fanzina comme endroit où on tente des trucs et où l'idée qu'on se plante est tout à fait acceptable, c'est assez magnifique.
Ils se sont peu plantés, je trouve que tout marche. Ils ont parfois un peu changé de format pour des thématiques. Ils ont fait le numéro 2 du nouveau journal de Judith et Marinette, par exemple, est un objet assez audacieux, qui est hyper élégant et qui parle du voyage, et qui est hyper, hyper beau, hyper cohérent. C'est souvent des objets hyper réussis, je trouve. À la fois très simple, la plupart des fanzines, ce sont des A5 tout bêtes, mais les couvertures sont toujours bien senties. Je trouve qu'il y a tellement peu de fautes dans toute cette série, et c'est conséquent. Je pense qu'il doit y avoir en tout 20 ou 25 numéros. Et je les ai quasi tous relus ces derniers jours et j'ai eu du plaisir du début jusqu'à la fin.
Au milieu de tout ça, il faut quand même dire que Imius ou Sébastien Lumino, c'est un auteur qui est un des plus forts des années, fin des années 90, début 2000, enfin il y a toujours aujourd'hui, mais ce qu'il a fait dans Julie et Marinette, il y a des récits vraiment fantastiques,
ils sont incroyables.
Au sens littéral du terme, puisque ça se passe dans l'espace, etc. Et c'est chaque fois des propositions très très intelligentes, très fines, une manière de suspendre le récit qui est à chaque fois vraiment étonnante.
Et c'est des gens, enfin en tout cas Sébastien Lumino, c'est quelqu'un qui dans le Judith Marinette change de registre hyper facilement. Ouais. Et c'est étonnant parce qu'il y a vraiment, on a des choses un peu potaches avec avec Fido, le chien qui se prend des poteaux dans tous les strips. Et à la fois il peut mettre en place des histoires de couple très serrées, très courtes, mais hyper angoissantes, limite. Enfin, pas forcément très réaliste, et voilà, tout fonctionne. Donc, alors pour suivre un peu, parce que ce ne sont pas des gens faciles à suivre, en fait. Sébastien Lumino a un site web, mais je crois que c'est assez récent. Il a fait quelques bouquins quand même, au Raquin Marteau. Il a participé au projet de la Maison Close chez Delcourt, qui était mené par Rupert Emulot. Il y a Le Chien de la Voisine et Un Chien Dangereux qui ont été édités au Taupe de l'Espace. Et il y a des Berniques aussi chez Cornelius, et il y a encore quelques autres ouvrages. Tofepi, par contre, alors lui, j'ai pas trouvé grand-chose. Et son dernier livre, c'est Pokowaki, Prince des Chasseurs, et c'est plutôt un album jeunesse qui a été édité chez Delcourt. Donc voilà, il faut un peu chercher. Je pense que les fanzines, enfin en tout cas, il y a toujours moyen de les acheter sur le site, et je pense qu'il y a encore moyen de leur en demander. Et je vous enjoins à les lire. Voilà. Maintenant, je crois qu'on va pouvoir s'écouter un petit peu de musique. On va écouter Orenda Fink et son morceau, c'est Wind. Vous écoutez toujours Radio Grand Papier. Alors, on parlait de Judith et Marinette il y a quelques secondes. J'ai quand même oublié de dire que l'aventure continuait un petit peu sous une autre forme, repris par un gars de la même bande, autour d'un fanzine qui s'appelle Récit. Et il y a les numéros 1 jusqu'à 6. Et il me semble que ça s'est arrêté aussi en 2013. Les
rétés, foutez quoi ?
Et alors, ceux-là, on peut les trouver, on a peut-être encore en Angoulême. Mais sinon, il faut regarder sur le site des éditions La Chose. Mais donc, je le redis, tout ça, c'est sur le site, vous avez les liens. Voilà, maintenant, je passe la parole à Thalie.
Oui, alors, ce mois-ci, je n'ai pas vraiment, préparé une rubrique L'imager des gens. J'ai un peu réfléchi, je n'avais pas trop d'idées. Et puis, c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé la semaine dernière, j'avais envie de parler de littérature jeunesse, de censure, de liberté d'expression. Je ne savais pas trop. Et en fait, là, tout de suite, je lisais des trucs comme tout le monde, un peu en ligne. Et l'École des loisirs a publié toutes sortes de citations d'auteurs jeunesse sous le titre « Lire, c'est le propre de l'homme ». Et ça m'a parlé. Et donc, j'avais envie de commencer cette rubrique en citant une auteure jeunesse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie Desplechin, et qui dit ceci. « Rien ne nous prépare mieux à tenir tête, à la meute, à la peur, à l'autorité, à l'existence même, que l'expérience solitaire de la liberté. » Et franchement, quel meilleur champ d'exercice, plus vaste, plus divers, plus sauvage, plus scandaleusement personnel que la lecture. Et effectivement, quoi de mieux que la lecture pour expérimenter la liberté de penser ? La lecture, ça permet vraiment l'ouverture sur un monde infini. Ça nous permet de vivre plusieurs vies, d'éprouver toutes les émotions. La lecture nous permet de nous mettre à la place de l'autre, d'être l'autre, au-delà de soi-même. Et la littérature jeunesse, on le dit souvent, mais je pense qu'elle est vraiment primordiale dans l'éducation de nos enfants, des plus petits, parce qu'elle leur donne cette possibilité d'exprimer leurs choix, de former leurs goûts et de se confronter à la diversité. Et c'est aussi important, cette diversité, dans la production jeunesse. C'est chouette qu'il y ait plein de choses qui existent, qu'il y ait plein de types de choses qui existent et que tout soit un peu possible aussi dans ce champ-là. Et récemment, il y a quand même pas mal de livres jeunesse qui ont été au centre de polémiques, notamment en France. Je ne reviendrai pas sur l'affaire Tous à poil, mais je pense quand même clairement à ce bouquin dont on a beaucoup parlé, on a tenté quand même vraiment de censurer ce livre dans les écoles, dans les bibliothèques, disant que ça passait un message presque pervers. On a voulu brider en fait la parole de certains auteurs au nom de la morale, hein, la grande morale. Et finalement, ces tentatives de censure, on le sait, elles datent pas d'hier. Je me souviens que, enfin, tout le monde se souvient certainement que les livres de Tom Ungerer, qui est quand même un auteur majeur du XXe siècle, ont été interdits aux États-Unis pendant plus de 40 ans. Simplement parce que parallèlement à son travail d'auteur jeunesse, il avait un travail d'illustrateur satirique et qu'il avait aussi publié des dessins pornographiques. Et pour ça, il a été banni d'un pays aussi grand que les États-Unis pendant plus de 40 ans, ce qui est assez hallucinant. Il y a un autre classique qui est le Max et les Maximons de Maurice Sendak. Quand il a été publié pour la première fois en France dans les années 60, avait été proclamé par certains critiques le livre le plus exécrable de l'année. Il avait été même banni à l'époque de certaines bibliothèques, ce qui est quand même assez hallucinant quand on pense que c'est un des livres aujourd'hui qui a le plus de succès auprès des enfants, même des adultes. Et Sendak répondait d'ailleurs lui-même à ses détracteurs de cette façon, je vais le citer aussi. Les gens sont toujours frappés de voir des enfants qui font et disent ce qu'ils ont envie et pas ce que les adultes ont envie de les entendre dire ou faire. Les enfants agacent les adultes. Je crois que la plupart des adultes n'aiment pas vraiment les enfants ou ne sont pas à l'aise avec eux. Je sais que beaucoup de parents n'observent pas leurs enfants. Beaucoup de parents ne leur prêtent pas attention, donc ils ne savent pas ce qu'ils sont réellement. Et cette citation, elle s'applique aussi à un livre dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Un livre qui a été aussi ignoré du public francophone pendant plusieurs décennies, c'est le célèbre Krastinias, réapparu donc en 1979 à l'École des loisirs dans l'excellente traduction de François Cavanna. Et oui, Charlie Hebdo n'est de nouveau pas loin, puisque Cavanna est un des fondateurs du journal satirique. Et il a commis, on peut le dire, un texte pour enfants. Il en a même commis d'autres par la suite, puisqu'il a aussi traduit les histoires de Wilhelm Busch, Max et Moritz. Alors ce livre, Krastinias, en allemand Struwwelpeter, je me suis entraînée, est né de l'imagination d'un médecin aliéniste, Heinrich Hoffmann, il y a plus de 150 ans. Alors que le Noël 1844 approche, le docteur Hoffmann se met en quête d'un livre d'images à offrir à son fils de 3 ans. Il écume les librairies, mais tout ce qu'il y voit lui semble incroyablement mièvre, moralisateur et terriblement ennuyeux. Il finit par rentrer chez lui avec un carnet vierge sous le bras. Il décide d'écrire lui-même ce bouquin. Exerçant la médecine générale auprès des enfants, il reçoit à l'époque beaucoup de jeunes patients terrorisés et inquiets, parce que le médecin, ça peut faire peur. Hein. Et pour dédramatiser l'acte médical, il griffonne en fait les dessins de petites histoires qu'il invente au fur et à mesure pendant ses consultations. Et il se rend compte que ça marche la plupart du temps. Ça permet à ses enfants de se concentrer évidemment sur autre chose. Et donc c'est à partir de ce matériel-là qu'il crée les histoires de Struwwelpeter. Les textes donc, sont tous rimés, sont tous des textes en rime, donc qui sonnent très bien. Il y a un rythme quand même assez extraordinaire. Et les dessins, espèce de gravures assez fines, sont des espèces de séquences qui, d'une certaine façon, préfigurent déjà un peu l'ancêtre de la BD, quoi, parce qu'il y a vraiment des séquences qui sont même parfois numérotées. Alors, le fils d'Hoffmann est ravi et le petit livre auto-édité commence à circuler jusqu'à tomber entre les mains d'un éditeur intéressé. Le livre est publié en 1846 et le succès est immédiat. 30 ans plus tard, le Struwwelpeter en est déjà à sa 100e édition en allemand. Donc on est encore au 19e siècle. Alors quant aux histoires, elles mettent en scène des enfants passages du tout, qui après avoir commis d'horribles bêtises sont punis de façon hyper cruelle. Mais en fait, le but d'Hoffmann, c'était pas de créer des chutes moralisatrices comme on peut le penser. C'est pas pour lui un outil pédagogique. Lui, il voulait d'abord faire rire en utilisant l'absurde, car aucune des situations décrites ici n'est évidemment réaliste. Et voilà, derrière des allures qu'on pouvait penser qu'il était pédagogue, en fait, c'est surtout un maître du nonsense. Alors, on l'a souvent reproché, évidemment, au livre, sa cruauté, mais ce qui prédomine, c'est le rire, finalement. Et puis, la peur, puisque dans ces histoires, l'un n'est pas dissociable de l'autre. Alors, le livre a mis vraiment du temps à s'imposer en France, notamment parce qu'on lui reprochait l'absence de délimitation du bien et du mal. C'est pas faux. Il y a plusieurs traductions. Il y a eu plusieurs traductions en français au fil des années. Il y a même eu une version début des années 70, vraiment post-68 art Baba Cool, qui était illustrée par Claude Lapointe, où on le découvre un Pierre Lébouriffé hippie défenseur de l'écologie. Donc on est assez loin de l'image du Krastignas d'Hoffmann. Mais donc il faut vraiment attendre 1979 et la traduction de Cavanna pour retrouver vraiment l'esprit d'origine. Et c'est cet humour noir qui caractérise ce livre et qui ravit les petits en même temps qu'il les terrifie. Alors je voulais lire une petite histoire rapido parce que je trouve qu'on ne peut pas... On ne peut pas se rendre compte de ce que c'est sans en entendre un petit bout du texte. Zut, je ne retrouve plus évidemment l'histoire que je voulais vous lire. C'est l'histoire de Gaspard mange ta soupe. Gaspard était un garçon, gros et rond comme un marron. Il vidait bien son assiette de soupe et la rendait nette. Mais un jour, il s'écria « La soupe, je n'en veux pas. Non, non, pas de soupe, non, pas de soupe, non et non. » Le lendemain, comme on voit, il était déjà moins gras. Comme la veille, il cria « La soupe, je n'en veux pas, non, non, pas de soupe, non, pas de soupe, non et non. » Le jour d'après, le rebelle était comme une ficelle. Mais quand la soupe arriva, de nouveau, il s'écria « La soupe, je n'en veux pas, non, non, pas de soupe, non, pas de soupe, non et non. » Le quatrième jour vint, il n'en restait presque rien. Puis un autre jour encore, il était tout à fait mort. Voilà, donc les histoires sont vraiment toutes dans ce ton-là, mais... Ça, voilà, ça a vraiment pas perdu de son charme et c'est un livre qui continue à être publié par l'École des loisirs. Heureusement que ça n'a pas disparu. Il y a eu une reprise il n'y a pas très longtemps par l'illustrateur allemand Attac, qui a été publié en français par le Frémok, qui est pas mal, mais je trouve qu'il y a un côté un peu édulcoré dans la dernière histoire qui pour moi, ça m'agace qu'ils aient essayé d'édulcorer ça. Voilà, je voulais juste terminer par une phrase d'Hoffmann, puisque c'est ma soirée citation, qui dit « La stricte raison ne peut émouvoir une âme d'enfant, mais la fait dépérir misérablement. »
Oh oh. Il y a un sens de disproportion en fait, dans le boulot, ça rejoint un peu l'actualité. La réponse disproportionnée, si tu ne manges pas ta soupe, tu meurs dans les 5 jours. Quoi. Si tu te suces les pouces, un type va surgir et te les couper. Et donc la disproportion est absurde à chaque fois, en fait, alors qu'on pourrait croire que c'est moralisateur. En fait, tout le monde perçoit bien que c'est n'importe quoi.
Tu peux être sûr que ça va faire rugir les enfants. J'imagine que ça les fait plus rire qu'autre chose. Évidemment. Voilà, alors sur ce, on va écouter un peu de musique. Par contre, je ne sais pas, je ne peux pas vous annoncer ce que c'est. Alors, ce sera la surprise, tant pis pour vous. Et puis après, on accueillera l'équipe de l'employé du mois. Voilà, alors on a autour de cette table une brochette de garçons. Des actuels et même des anciens de l'employé du mois. Alors, je vais vous présenter rapidement. Donc, il y a Max de Radiguès. Bonjour, Max.
Salut, Anna.
Cédric Manche. Bonjour, Cédric.
Bonsoir.
Sacha Gerg. Salut. Bonjour, Sacha. Claude de Smet.
Bonjour,
Claude. Et alors, faute d'avoir Philippe Van der Heyden, on a pris Philippe Jadin. Bonjour, Philippe. Bonjour. Tu ne fais pas partie de la structure, mais on expliquera un peu plus tard pourquoi tu es parmi nous. Et Philippe n'est pas là parce que Philippe, c'est le seul à bosser ce soir pour l'expo. Mais on en parlera plus tard aussi. Alors, la musique, c'est toi qui l'avais choisie, Max. C'était quoi ?
Alors, ça s'appelle. C'est super facile, parce que le morceau s'appelle Cayucos et le groupe s'appelle Cayucas. Donc, c'est assez simple. Et j'ai choisi ça parce que c'est un peu joyeux. Et comme ces derniers jours, Facebook et Twitter est à la tristesse, je me suis dit, je vais passer un petit truc sympa. Et en plus, comme vous faites une émission fanzine, nous, on a beaucoup écouté ça sur la route avec Tali quand on était en Californie, quand on était rendre visite à Alec Langstreth, qui est. Le deuxième roi du fanzine après John Porcellino. Donc voilà, ça me semblait un bon choix.
Alors avant d'enchaîner sur toute cette histoire des Américains un peu à l'employé du mois, moi déjà je voudrais aller un peu dans l'ordre et que certains d'entre vous fassent un petit historique. Alors peut-être plus Sacha ou Cédric, parce que vous êtes, ou Claude même, vous êtes un peu les vieux de la bande. Alors qui se lance un peu ?
Ah, le vieux c'est Claude.
Allez, vas-y, Cédric, raconte-nous. D'où ça vient, l'employé du mois ?
L'employé du mois, au départ, c'est une rencontre d'étudiants. C'est une bande de copains de l'ERG. Voilà. En fait, on était 5-6 copains à l'ERG à Bruxelles, donc étudiant ou pas en bande dessinée. Et on achetait fréquemment le Prouloup de David Libens dans les couloirs de l'école. Donc David qui était une année au-dessus de nous. Et petit à petit, ben, on a eu envie de collaborer avec lui. On lui a proposé de faire un truc. Et alors David a proposé de faire un 24 pages, mais toutes les semaines, pendant un an. Donc voilà.
Et qui s'appelle ?
Le Spon.
Et en fait, en attendant, c'est marrant parce que quand on parle de... On m'entend là, oui. Quand on parle de l'emploi du mois, on commence toujours par là, mais en fait, ce n'était pas tout à fait l'emploi du mois. Ça, c'était avant l'emploi du mois. Mais c'est vrai que c'est une expérience fondatrice. Voilà, c'était un an de fanzina assez intensif, à faire un fanzine par semaine. Et donc, ça a formé l'équipe de base qui est par la suite rapidement a fondé l'emploi du mois.
Et l'emploi du mois s'est fondé autour d'un ouvrage en particulier.
Bruxellation.
Ouais.
Voilà.
Enfin, passer du fanzine à la...
Bah en fait, je pense qu'on en avait marre un petit peu du fanzine. Enfin, on en avait marre.
C'était très dur de tenir pendant un an, de remplir 24 pages pendant un an, en gros à 6 personnes, même si c'était ouvert aussi à d'autres gens. Et je crois qu'après un an, on avait plus ou moins tous fait le tour. Enfin, vraiment, on a donné tout ce qu'on avait.
On avait envie de travailler sur des récits un peu plus longs. Enfin, c'est toujours ce qu'on raconte. C'est assez vrai. Je pense qu'on était... Ouais, on avait envie de passer du temps, pas devoir courir chaque jeudi, mardi, je ne sais plus quel jour c'était, pour devoir absolument rendre ses planches. Donc c'était un petit peu... Ça devenait un petit peu fatigant, on avait l'impression de ne pas pouvoir aller au bout des choses. Donc voilà, et c'est vrai qu'on s'est lancé dans l'aventure éditoriale sans forcément connaître du coup ce que c'était que faire un livre en offset, parce qu'on y a été assez vite confronté. C'est vrai qu'à Bruxellation, il y a une première version qui était la photocopie de la sérigraphie, donc une espèce de fanzine améliorée, enfin vachement améliorée, mais enfin... quelque chose de cet ordre-là. Et puis, très très vite, à l'époque, c'était possible. On est rentré en distribution, on nous a proposé, il y avait le comptoir des indépendants à l'époque. « Ah, vous pourriez proposer ce bouquin, peut-être, allez-y, hop. » Eux, ils nous ont dit « Oui, mais il faudrait que ça soit de l'offset, de la photocopie, ça ne va pas. » Et de toute façon, la version photocopie d'Abousselation était épuisée. On l'a retirée en offset et voilà, je ne sais plus comment on a trouvé un imprimeur. Et on y est allé, quoi.
Et moi, je suis dans l'employé du mois, mais je ne sais pas. Et c'est vrai l'histoire que l'employé du mois, au début, il y a une... Enfin, l'employé du mois, c'est un nom parce qu'il y avait une idée de mensuel. Après, passer à l'hebdomadaire ou pas du tout?
C'est pas moi qui ai choisi le nom, donc je ne sais pas.
Non, je pense que c'était juste pour le jeu de mots, en fait. C'était pas, donc c'est employé du mois, mais sans le S pour...
J'ai un souvenir de brainstorming et qu'on cherche pendant des semaines un nom...
Pas des semaines, je pense pas. Mais pour
moi, ça était quelque chose. J'étais assez
peut-être bon, des semaines. Mais pour moi, là, vraiment le souvenir que j'ai, c'est que, en tout cas, c'était important pour nous qu'il y ait un lien entre le monde du travail et, façon de parler, le monde du divertissement, la bande dessinée. Et donc, on a cherché, voilà, employé du mois. Enfin, avant de tomber sur employé du mois, on a pensé à, voilà, je sais plus, marketing, machin, plein de choses, manager, etc. Et puis, à un moment...
manager du nous.
David Libens a sorti employé du mois. Et puis, on s'est dit, tiens, par rapport à l'autobiographie, etc., peut-être que le faire tomber le S, ça serait peut-être marrant.
Oui, et puis, comme on fait tout nous-mêmes, voilà. On voulait publier nos livres et on faisait les mises en page. Donc, ça avait un sens d'enlever le S.
Alors, donc, à Bruxellation, c'est 2000. Et là, on fête vos 15 ans. Alors, bon, assez rapidement, hein, on n'y passe pas la soirée, mais selon vous, il y a certaines étapes, peut-être, 40075, grand papier, et la manière dont le catalogue a évolué. Peut-être, Max, tu pourras parler aussi de comment, à un moment, les Américains sont rentrés dans le catalogue ou,
Oui, je ne sais pas. J'ai la peine, à donner des étapes comme ça, mais c'est vrai que...
Ça démarrait assez lentement. En fait, au début, on sortait un à deux bouquins par an.
Plusieurs années où on faisait ça un petit peu, comme ça.
Plutôt des gens de l'emploi, enfin plutôt des membres de la structure. Mm-hmm.
Oui, on faisait évidemment nos récits. En fait, c'était bien l'idée. On produisait du récit pour s'auto-éditer, en fait. Ouais.
Ouais, le premier était le couloir, si je me souviens bien. Puis il y avait de son côté David Libens, qui était l'espèce de mentor de la bande. Donc il y avait Recto Verso derrière. Lui, il avait une pratique relativement quotidienne de la bande dessinée. Et puis après ça, il y a eu directement Disparition, qui était le second collectif.
Je suis plus l'œuvre, mais l'ordre. Mais en effet, il y a eu. Parce qu'à Bruxellation, avait eu son petit succès. Et on était surpris que ça fonctionne, parce que ce n'était pas du tout prévu pour ce genre de format, un collectif. Petit format et avec beaucoup de pages. Et puis du coup, on s'est dit, ah bon, on va refaire ça. ce qui a moins marché du coup, mais enfin bon, c'était pas grave.
Oui, moi je me souviens de discussions à la sortie de Disparition en disant en fait c'est ruineux, épuisant et en fait ça marche pas tellement bien de faire des collectifs, donc il faut se concentrer sur
on,
la
on production. On disait déjà ça à l'époque, ouais. Ouais,
puis il y en a eu 7 après. On en reparlera, c'est la deuxième question.
Mais donc pour les étapes, je sais pas très bien, il y a eu... pour moi, il y a des éléments comme 40 075 km qui sont une expérience, donc un gros collectif de nouveau lié à un site web qui sont pour moi des moments où en fait la structure a grandi son réseau d'auteurs en fait. Et donc ça, c'est des moments clés. Il y a eu ça et d'autres choses.
Moi, je me souviens aussi quand je suis arrivé et qu'on a fait, on a décidé de faire un petit, on n'arrivait pas trop à le mettre dans une collection et c'est à ce moment-là qu'on a commencé, enfin que vous avez commencé parce que moi je débarquais là-dedans. À dire
un
que c'était petit, peut-être pas
un bouquin à toi.
Oui, c'est un bouquin à moi qu'on publiait que je publiais en ligne et qui était publié qui allait être publié en bouquin à l'Employé du Mois. Et l'Employé du Mois à l'époque avait des collections qui avec tous des noms différents, je me rappelle pas très bien les noms, mais en gros, à ce moment-là, on s'est dit ah mais est-ce que c'est utile d'avoir des collections et tout d'un coup du coup les objets ont changé parce qu'il y avait plus l'obligation d'avoir un format spécial, un papier spécial et donc voilà, j'ai l'impression que tout ça a bougé un peu à ce moment-là.
On était super influencés par l'association. Pour l'idée, je ne sais pas pourquoi. Enfin, non, c'est logique, c'est ce qu'on avait sous les yeux, mais on voulait absolument faire rentrer les bouquins dans des collections.
Ouais, moi, j'ai le souvenir qu'on avait une collection qui était pour soi, quand on a fait quelques bouquins, qui était. On voulait faire des bouquins à la limite en numérique déjà. C'était déjà un peu cette logique pour se permettre plus de liberté, que les livres ne plombent pas nos finances, donc des livres moins chers. Et alors, on a mis tout le reste dans une autre collection, mais ça, c'était déjà super artificiel, en fait. Ça tenait pas la route. Donc, après coup, on s'est dit, bon, en fait, tous ces autres bouquins, grosso modo, il n'y a pas de collection, c'est hors collection, quoi. Si simple que ça.
C'est peut-être le moment où on voit apparaître des formats tout à fait différents, comme Monsieur Pixel, cartonné.
Ça a toujours été plus ou moins le cas, je pense. On n'a jamais trop.
Non, il y a Bouture et le Ver de Lait qui ont le même format, mais sinon,
ouais, mais c'est plus parce voilà. Qu'on a, on voit un truc qui fonctionne et on dit on va refaire la même chose, mais c'est pas tellement. Enfin, oui, je sais pas. Oui, on répète ce qu'on sait faire, mais enfin, contrairement aux 24 qui sont arrivés par après, où là il y a clairement une volonté de répétition, de formalisme.
Mais il faut aussi rappeler que la bande dessinée des années 80 et la fin des années 90 étaient axées autour d'idées. La ligne éditoriale était une forme de brûlot, quoi. On disait, des gens comme Frémok, ce sont à l'époque Fréon, se sont créés en disant nous, on a un manifeste, c'est ça la base de notre édition. Ici, c'était vachement moins présent. Quand nous, on a commencé, on ne s'est pas posé la question est-ce qu'il y a un manifeste. Par contre, cette question de collection, elle était lui aussi héritée de plus vieilles structures, de la bande dessinée traditionnelle. Et donc, s'en libérer a fait partie des choses qu'on a fait en même temps, en passant en 2000. Bah, cette question-là devenait caduque par rapport à d'autres grandes maisons d'édition. On n'a plus à faire ça, en effet, comme l'association ou même comme de plus grosses maisons d'édition encore.
Mais c'est vrai que juste pour finir, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a appliqué de façon un peu automatique, qui n'avait pas beaucoup de sens et qu'on a abandonné, mais finalement qui reste intéressante. Je ne crois pas que la question de la collection soit à jeter en disant c'est d'une autre époque, parce que de fait, on le fait maintenant avec la collection 24, qui arrive à son terme, et peut-être bien qu'on va le refaire par la suite.
Quand est-ce que vous avez eu l'impression de devenir vraiment éditeur? Parce qu'au départ, vous éditiez surtout vos boulots, donc... Qu'est-ce qui a changé à un moment? Est-ce que c'est quand vous avez agrandi le catalogue, vous avez fait rentrer d'autres auteurs? C'est les collectifs
Dès qu'ils se sont publiés eux-mêmes, en fait.
moi, je vais parler pour moi. Ça a mis vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et même parfois, quand je regarde d'autres éditeurs, je me dis, ouais, je ne suis pas vraiment éditeur. Enfin, je me sens plus auteur qu'éditeur, fondamentalement. Avec le temps, j'ai quand même investi, mis la veste d'éditeur. Mais je sais pas, c'est peut-être quand des gens comme Max sont arrivés, qui avaient une autre vision, qui étaient déjà un pied dans le livre, étant libraire, pour qui le livre représentait autre chose, peut-être. Moi, j'ai pas le côté sacré du livre, en fait, qu'ont la majorité des éditeurs, pour qui c'est l'objet absolu. Je respecte le livre, mais c'est pas, j'ai pas cette position, en fait.
Mais je pense que, ouais. Moi, quand je suis arrivé à l'Employé du Mois, j'étais libraire et j'étais super curieux en fait du fonctionnement de la création d'un livre, quoi. Donc déjà, moi, j'avais jamais publié mais j'étais assez curieux. Je faisais déjà du fanzine et tout ça, et le fait d'imprimer, le fait de distribuer, tout ça, c'était quelque chose qui m'intéressait plus parce que j'étais par curiosité, quoi. Et donc j'ai l'impression que être éditeur, c'est un truc qu'on commence à accepter, quoi. Ça fait 15 ans qu'on fait de l'édition.
C'est bien, les gars.
Et on commence à accepter. Et on est, c'est un peu le problème de l'employé du mois, c'est qu'on est tous un peu trop humbles. Et du coup, on n'arrive pas à dire, genre, on est éditeur, c'est ça qu'on fait, on a un manifeste, on saute pas à pieds joints partout, quoi. On est plutôt du genre à rester contre les murs, à faire oui, c'est
bien. Non, mais c'est pas une question de fierté, c'est une question d'avoir envie de le faire, plutôt. J'ai pas l'impression c'est un manque de fierté, mais enfin bon. Non, mais je pense que maintenant, on a quand même mis la casquette d'éditeur depuis un moment. Sinon, on aurait arrêté, parce qu'à un moment donné, si on continue et qu'on le fait et qu'on essaie de le faire bien, bah, voilà, il faut le faire à 100%, on peut plus. Sinon, on aurait arrêté, en fait, je pense.
Aussi parce qu'il y a un boulot un peu de prospection, quoi. Vous devez quand même chercher des nouveaux auteurs. Vous ne pouvez pas toujours publier vos propres boulots, d'autant plus que certains d'entre vous maintenant publient ailleurs. Donc j'imagine qu'il y a ça aussi, c'est renouveler un peu la bande.
Mais ça fait un moment qu'en fait, on ne se publie plus trop, même si on aimerait, mais parce que comme on a, pour certains d'entre nous, endossé la casquette aussi d'auteur, qu'on essaie d'en vivre autant que possible, on ne se paye pas à l'emploi du mois, on paye peu nos auteurs, donc ce n'est pas viable. Donc moi, par exemple, il y a des trucs que j'aimerais bien mettre, mais je me dis, mais si je fais ça, comment je paye mon loyer après coup? Donc pour l'instant, on édite ailleurs et on travaille pour les autres. Ouais.
J'ai l'impression quand même que l'ouverture du catalogue à des auteurs étrangers et des auteurs que vous connaissez pas et que vous rencontrez autour du livre, c'est quand même assez récent. Parce que si on regarde, si on revient un peu en arrière dans le catalogue, on a des Pascal Mathé, des Pierre Morel qui sont comme un peu la famille élargie de l'employé. Et puis, à un moment, avec peut-être les Américains, enfin, c'est le moment où vous publiez des Américains, mais vous publiez aussi Ulilust. Enfin, vous commencez à avoir des auteurs internationaux que vous ne connaissez pas forcément, qui ne sont pas vos potes, qui ne sont pas des gens que vous avez rencontrés.
Mais ce n'est pas si vrai que ça, parce qu'en fait, moi, les Américains, c'est tous des copains. Enfin, quasiment la plupart, à part Cole Johnson, qu'on ne connaît pas, c'est tous des gens que je rencontre et dont je me sens assez proche et dont je suis le boulot depuis un certain temps. Et voilà, ça se fait aussi. Enfin, moi, j'ai l'impression, c'est un peu nul de dire ça, mais j'ai l'impression que ce que j'aime lire en bande dessinée, c'est le boulot des gens que je connais. C'est un peu bizarre, mais je trouve beaucoup plus dans ce boulot-là que dans le boulot de gens qui me sont complètement inconnus, quoi. Et du coup, tous les Américains quasiment qu'on a publiés, que ce soit Alec ou Charles Forsman
Kendall,
c'est des gens que j'ai rencontrés. John Porcellino, c'est des gens que j'ai rencontrés et avec qui j'ai eu envie de bosser aussi. Et que toute l'équipe est super d'accord pour faire ça et super enthousiaste. Mais ce n'est pas non plus des gens qui débarquent de nulle part. Ce n'est pas des gens qu'on trouve par hasard.
Oui, c'est vrai. Ça devient le cas. Et alors, même si on les connaît peu, très souvent, ça devient des amis. Donc, en fait, ça devient la famille élargie assez vite. Mm-hmm. Parce que de nouveau, si on fait ça, qu'on le fait pas pour l'argent, mais pour la passion, c'est aussi pour l'expérience humaine. Et donc, on va pas se faire chier à bosser avec des gens qui nous emmerdent, quoi.
Alors, une des choses qui caractérise quand même beaucoup l'employé du mois aussi, on a fait une blague là-dessus tout à l'heure, mais l'employé du mois, c'est 8 collectifs, plus un 9e qui va donc arriver à l'occasion de l'expo Angoulême. Des projets collaboratifs, collectifs, comme Grand Papier, 8P Comics. C'est quand même l'employé du mois qu'organisait les 24 heures de la bande dessinée à Bruxelles pendant 5 ans. Donc il y a quand même quelque chose, il y a une attitude qui est très spécifique à l'employé du mois par rapport au collectif et à la manière de brasser comme ça beaucoup d'auteurs. Des choses comme 40 075, c'est quand même hyper généreux. Appendix, ce que vous faites de nouveau pour Sweet 15, qui est un appel hyper ouvert. Alors même s'il y a une sélection après, vous êtes quand même prêt à accueillir n'importe quel récit de n'importe qui pourvu que ça vous plaise et que ce soit un bon récit. Là, on n'est plus du tout dans le copinage. C'est par rapport à Grand Papier, on a un brassage d'auteurs qui est énorme. Qu'est-ce que c'est que cette propension à ouvrir comme ça à des centaines d'auteurs potentiellement.
Je vais redire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je pense que c'est l'expérience humaine, c'est un moment excitant. Alors pas trop tout le temps parce que sinon ça bouffe trop d'énergie, mais ces moments de rush qu'on a eu avec les 24 heures, qu'on a eu avec Sweet 15, qui on croise les doigts sera là pour Angoulême normalement. C'est des trucs qu'on a Sweet 15 qu'on a quasi décidé sur un coup de tête en 10 minutes. Le titre a été trouvé, puis on dit on le fait ouais. Et après, c'est bon, on contacte des gens, on envoie une mailing, c'est parti. Et voilà, c'est comme un petit bain de foule, c'est assez jouissif, quoi.
Et puis je pense qu'on a des envies d'auteur aussi. Enfin, parce que on est tous auteurs, on est un peu éditeur par défaut parce qu'on a, on s'est lancé là-dedans et donc on est éditeur. Mais du coup, pour nous, il y a, voilà, quand on organise des 24 heures, on est, c'est aussi notre boulot d'auteur et notre boulot d'éditeur. Entre ça, moi, je fais pas trop de séparation entre les deux et j'ai l'impression que voilà, faire organiser des 24 heures et d'avoir plein de gens qui débarquent, et tu vas dessiner avec tout le monde et tout, c'est super excitant. Mm-hmm. Que tu sois auteur ou éditeur, c'est super excitant. Et donc, on se lance dans des projets parce que ça nous excite et parce qu'on a envie de le faire. Et l'employé du mois n'a jamais été... on n'a jamais fait des projets pour bien vendre un bouquin. On n'a jamais fait des projets en se disant « Ça, c'est un bouquin, on va en vendre des mégatonnes. C'est moyen, mais on va en vendre des mégatonnes. » On n'a jamais fait ça, quoi. Je pense qu'on a plutôt fait des bouquins où on se dit « Ça, c'est vraiment bien, on ne va pas en vendre, mais, je peux, mais c'est vraiment bien, ça vaut le coup, quoi. »
Et non. Et...
non, ou alors on croit qu'on va en vendre, mais en fait...
Oui, le prochain bouquin, John Porcellino, je ne pense pas qu'on va en vendre des mégatonnes. Mais putain, John Porcellino, c'est un super auteur. Il faut que ce bouquin existe en France et qu'il soit traduit. Et voilà. Et du coup, je pense que nous, on a ce rôle-là et ça nous excite de faire ça. Et vu qu'on n'est pas payé, on fait que des choses qui nous intéressent et donc on va pas commencer à se faire chier à devoir rentrer dans des moules et on va pas faire des faux collectifs sur sur n'importe quoi, sur n'importe quel sujet d'actualité, comme par exemple beaucoup de propositions en ce moment.
Qu'est-ce qui vous titillait quand vous avez mis en place Grand Papier, qui est quand même un de vos gros projets en 2007?
Je ne sais plus très bien comment Grand Papier est arrivé, mais en tout cas, j'allais dire par rapport à ce que disait Max, etc., qu'aussi avant d'être des auteurs ou d'être des éditeurs, on est avant tout des lecteurs et des gens qui... On adore le livre, je crois, quand même, chacun dans l'équipe. Et faire Grand Papier, justement, c'est une manière de se faire plaisir. C'est, tiens, potentiellement, je vais peut-être découvrir un super auteur chinois ou américain. Petit à petit, il y a des connexions comme ça qui se font. Et c'est assez génial quoi, de se dire, tiens... Voilà, il y a un petit gars qu'on a réussi à toucher, qui a entendu parler de Grand Papier, on ne sait pas très bien comment, qui demande pour participer, et tout d'un coup,
Mais Grand Papier, c'était, on a toujours été un peu excité par la chose numérique, depuis 2001, depuis même 99, en fait, parce que je sais que le SPON... j'ai des conneries, Claude.
On n'avait pas... C'est le site de l'employé avait des journaux, où on publiait.
Ouais,
des...
mais avant ça, il y avait déjà un site.
Ouais, mais c'était un site, c'était.
Ouais, mais il y avait quand même un
pas
site.
Pas dynamique, c'était du
non,
bon.
Non, mais ça, on s'en fout. Il y avait quand même un site un à site, une époque ouais. Où les gens n'avaient pas Internet. Non, j'exagère. Mais non, j'exagère. Non, mais c'est pour dire que, en fait, c'est toujours un truc parce qu'on a un petit peu un petit côté geek chez certains d'entre nous. Donc.
Pas tous.
On trouve ça rigolo. Et donc, on avait fait 40 075, qui était un projet d'un an sur. Des trajets qui étaient ouverts à n'importe qui. On a eu plein de soumissions, à boire et à manger, plein de choses mauvaises, des choses bonnes. On a fait un bouquin, on a fermé le site. Et là, on s'est dit, ah, dis donc, en fait, quand on lance ce genre de projet, ça, il se passe un... Il y a du répondant, quoi. Donc, on savait le faire, alors, contrairement à plein d'éditeurs qu'on voyait qui étaient complètement nulle part par rapport à ça. On s'est dit, ah, il faut quand même qu'on fasse un truc. Alors, on dit, bon, par contre, ça sera select, on va reprendre des gens qu'on aime bien. Et depuis, c'est vrai qu'on a toujours trié. Donc les gens qui sont sur Grand Papier c'est pas ouvert à n'importe qui. Alors c'est un tri, c'est aussi une plateforme pour démarrer, donc on va pas mettre le niveau d'exigence comme pour des livres, on le baisse, mais on prend pas n'importe quoi. Et puis avec les années, c'est vrai que ça devient un endroit où il y a une grosse archive avec des choses bien. Ouais.
Pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est un projet de bande dessinée en ligne gratuit, et donc c'est sur www.grandpapier.org.
Mais en plus, c'est assez agréable de lancer des projets et de se rendre compte qu'en fait, ces projets vivent d'eux-mêmes. Parce que Grand Papier, par exemple, c'est un projet pour lequel Sacha, tous les X mois, doit recoder des choses et remettre ça au goût du jour. Mais en soi, c'est un projet qui vit tout seul.
En termes de contenu, oui.
En termes de contenu. Et la radio est un bon exemple aussi de
la radio est un enfant de Grand Papier.
Qui était un enfant de Grand Papier, qui est un enfant de l'employé du mois. Et en fait, nous, on n'a plus aucun pouvoir là-dessus. Et c'est un truc qui vit sa vie tout seul. Et c'est super chouette de... Voilà, nous, on a commencé comme éditeur en faisant des bouquins. Et puis, en fait, il y a plein de projets un peu tentaculaires qui sont partis, qui, en fait, sont devenus des choses qui sont vivantes en soi et qui sont plus dépendantes de nous. Et ça, c'est super chouette, c'est super agréable.
On va s'écouter un petit peu de musique. Alors, je ne sais pas qui a... Cédric Manche, le Jean nous dénonce Cédric Manche du bout du doigt. Qu'est-ce que tu choisis, Cédric?
Non, j'ai une prononciation nulle, donc c'est le groupe Savages, mais je sais pas, voilà. Le nom du morceau, c'est Shut Up. Comment est-ce qu'on dit bon, voilà, je prononce très mal. C'est Max l'Américain. Voilà.
Ok, on s'écoute.
Il faut dire le pourquoi. Non.
Non, c'est bon. Ça. Ok, vous écoutez toujours Radio Grand Papier et on est avec l'employé du mois, la structure d'édition bruxelloise de bande dessinée. Alors, c'est vos 15 ans et alors vous avez décidé de faire quelque chose à Angoulême. Qu'est-ce qu'on choisit de montrer quand on a une carte blanche pour faire une expo à Angoulême et qu'on est éditeur de bande dessinée?
Qu'est-ce qu'on choisit de montrer? Ce qu'on a prévu, c'est au cœur de l'exposition, il va y avoir un. C'est un peu le. On s'est fait plaisir.
La pièce maîtresse.
La pièce centrale, c'est un immeuble, parce que le premier. Dans les premiers livres de l'employé du mois et sur le site de l'employé du mois, il y avait un immeuble. Et c'était un peu une vision fantasmée d'une maison d'édition avec. C'était un petit immeuble, avec à chaque étage. Le premier étage, c'était l'imprimerie. Le second, c'était. Les stocks, et le troisième, c'était l'étage des dessinateurs. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas recréer ça, mais en vrai. Et donc, on a fait un immeuble qui fait, je pense qu'il fait 1,80 m de haut, et qui reproduit fidèlement le vieux dessin que j'avais fait en 2001.
Mm-hmm. Enfin, ouais, et quand il dit, on a fait un immeuble, c'est Claude de Smet, Bulu et Philippe Jadin qui ont fait un immeuble.
Oui.
Avec vos petites mains.
Oui, et nos petites scies aussi.
Ouais,
et qu'est-ce qu'il va y avoir dans cet immeuble alors?
Et ben, ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on avait sur le dessin. Donc, on a mis. Il y a une imprimante offset, il y a miniature, et il y a des stocks, il y a des caisses de livres miniatures, il y a des dessinateurs aussi miniatures. Et voilà, et on a mis des petits moteurs à l'intérieur, donc ça bouge, ça fait du bruit.
C'est Philippe qui s'est occupé de.
L'étage administration aussi.
Ah bon, d'accord.
Oui, on s'est un peu vengé sur la. Sur l'administration.
Sur l'administration.
Oui, il y a une très belle photocopieuse qui, de temps en temps, fait des balayages. Et puis, il y a aussi des pigeons sur le toit.
Oui. J'ai mis beaucoup de pigeons. Je ne sais pas pourquoi je fais une fixation sur les pigeons, mais voilà, il y a beaucoup de pigeons. Et on s'est fait plaisir. On a mis quelques détails. Donc, je pense que ça. Je suis curieux de voir la réaction du public et de voir si les gens vont passer du temps à voir où ça bouge, qu'est-ce qui fait du bruit. Et voilà.
D'où la présence de Philippe Jadin à tes côtés, Claude, puisque. Je te présentais tout à l'heure en rigolant, tu ne fais pas partie de la structure, mais tu es une aide précieuse dans la réalisation de cet immeuble pour cette expo.
Et pas que ça, on a fait une superbe vidéo avec Philippe sur l'historique officiel de l'employé du mois. Vidéo à voir dans l'expo. Et voilà, donc c'est Philippe qui est le grand monteur, qui a écrit les textes et qui a choisi les images. Donc c'est,
Un truc très sérieux et très premier degré, j'imagine.
Qui représente parfaitement l'histoire de l'employé du mois.
En fait, c'est le stagiaire éternel. En fait, tu es un peu notre Gaston Lagaffe. C'est le mec qui est arrivé là un peu par hasard et qui. Sauf que tu gaffes pas trop.
J'essaye.
Et alors, okay. À part ça, comment...
À part ça, on va avoir de la planche, comme dans toute expo de bande dessinée. Beaucoup de planches. On vient plus ou moins de mettre en place le plan final de tout ce qu'on avait. On a tous les originaux, tous les cadres. Et puis quoi d'autre?
On a une ligne du temps de tous les employés du mois qu'on a eu pendant 15 ans, parce que bon, une entreprise comme nous, on a eu quelques employés du mois, donc on a un beau mur de photos avec chaque fois, pour exposer les planches, savoir qui a fait quoi, on a un beau mur de photos de tout le monde, ça va être assez ridicule. J'ai pas encore vu les impressions, elles doivent arriver demain, j'espère, pour qu'on mette ça en cadre, mais voilà, donc on va avoir un peu l'historique de la structure par des photos. On va avoir une télévision avec une télévision. Est-ce qu'on appelle ça encore une télévision quand c'est un écran plat? Un écran. On va avoir un écran avec des cycles de marche. Donc on a le logo de l'employé du mois, c'est un petit bonhomme qui pousse un chariot. Et chaque auteur s'est réapproprié le logo et on a fait une animation. Et donc ces animations vont être projetées.
Donc faites par des auteurs du catalogue.
Faites par des auteurs du catalogue. On a plein de choses.
Mais... On a pas de chance, on a vraiment joué la carte entreprise, corporate, un petit peu au deuxième degré, évidemment, avec cet immeuble, ces photos, ce mur d'employés modèle qu'on a monté sur des corps. Enfin bon, c'est des montages photos tout pourris. Il y a un petit décalage volontaire. Mais ça donne quand même, la possibilité de bien se rendre compte un petit peu de ce qu'on a fait. Et voilà, il y aura beaucoup d'originaux, puis des petites surprises, on va peut-être pas tout dire.
Oui, alors par contre, on aura aussi on a un tote bag qui sera imprimé, qui sera vendu avec un dessin de Cédric. Et on a 5 nouveaux livres. On a un livre de John Porcellino, dont on a déjà parlé, qui s'appelle Tueur de moustiques. Et on a 4 nouveaux 24, et qui en plus, en exclusivité, sont imprimés dans la mauvaise couleur pour Angoulême.
Comme ça, tout le monde est bien au courant.
Et un catalogue qui, en fait.
C'est vrai, on a 6
livres. Oui, le catalogue, oui.
Putain de Dieu. On a vu que le Kiss Kiss Bang Bang avait marché au-delà de nos espérances, d'un seul coup, on s'est dit, comme des cons, et comme chaque fois, on parlait tout à l'heure des collectifs, on sait bien que les collectifs, ça marche pas, que c'est plein de boulot, que c'est, il faut récupérer chaque planche, tous les auteurs, les balances dans des formats différents, etc. Et pourtant, après avoir vu qu'on avait ce pognon, on s'est dit, on doit faire un catalogue, et puis merde, quoi, faisons un collectif. Hein. Est-ce qu'on ne ferait pas ça? Et en 2 jours, boum, boum, c'est lancé. On a envoyé une demande à la mailing list. Et puis, on s'est retourné, les planches commençaient à pleuvoir. Et on a eu plus de 90 récits. Et puis, finalement, il y avait un devis qui avait été demandé pour pas trop de planches. Et puis, un devis pour 192 pages. Et finalement, on s'est dit, bon, ça sera un bouquin de 192 pages. Donc, ce collectif qui sera distribué gratuitement, c'est une vraie sélection autour de la thématique de avoir 15 ans et il y a des putains de bons récits à l'intérieur.
Oui, et alors en plus, comme on sait que on apprend quand même de nos erreurs parce qu'on sait que les collectifs ça se vend pas très bien et du coup on le donne gratuitement.
Est-ce que vous pouvez un peu teaser les quelques noms d'auteurs qui sont dans ce collectif ou à part vous?
Il y aura moi.
Alors, on a une très belle couverture d'Assane, qui est l'auteur du Palais de Glace chez nous. On a pas mal d'auteurs maison habituels que tout le monde qui suit un peu l'employé du mois peut connaître. On a des auteurs qu'on n'a jamais eu avant. Donc on a un auteur italien qui s'appelle Andrea Settimo et Lorenzo Ghetti au scénario, dont Nico a parlé pendant sa rubrique parce que Lorenzo a un site qui s'appelle To Be Continued. Et puis on a un jeune auteur qui s'appelle Anis Elamouri. On a, j'ai pas tout le.
Encore une italienne, c'est pas l'Ilaria.
Ilaria Boschia, qui est un superbe récit. Ouais. Enfin voilà, on a plein de gens. Ce qui est chouette, c'est qu'on a plein de gens qui ont déjà publié des bouquins, des gens qui ont déjà publié à l'employé du mois, et puis on a des gens avec qui on n'a jamais travaillé, avec qui on aurait voulu travailler, et puis on a des gens qui ont juste jamais publié de leur vie. Donc c'est super.
C'est vrai qu'au début, on s'est dit, on va demander. Parce que c'était un truc de dernière minute. Donc comment est-ce qu'on peut activer des auteurs et leur dire, bon, maintenant, il faut produire 2-4 pages très, très vite parce qu'on a très, très peu de temps. On peut le faire aux gens qui sont proches, qui font partie de la famille élargie, comme on disait. Mais on a ces heureuses surprises avec quand même des gens qui ont répondu à l'appel. Ça, c'est peut-être justement, on parlait de grands papiers du réseau. On le fait peu, mais quand il faut activer, envoyer. Activer un réseau élargi d'un seul coup, c'est un super outil en fait. Et on a des très bonnes surprises parce qu'on ne savait pas du tout à quel point les gens allaient nous suivre là-dessus. Voilà.
C'était très stressant. C'était un peu comme le Kiss Kiss Bank Bank, là, faire des trucs, lancer des trucs en ligne et puis espérer qu'en fait il y a des gens qui regardent ce qui se passe en ligne. Donc c'est assez stressant, mais ça a marché donc c'est bien.
Alors, vous dites que vous sortez les 4 derniers numéros de la collection 24. Est-ce que vous pouvez un peu raconter le principe de cette série, comment c'est né? Parce qu'on parlait des 24 heures, mais ça vient quand même un petit peu de là.
Complètement. Mais c'est en fait, on a fait 5 années de 24 heures de la bande dessinée, qui sont organisées par Angoulême, entre autres, et plein d'autres structures. C'est en tout cas un système que chacun peut faire. Et puis, tout ça a été posté sur grand papier, de nouveau, hein. Plaque tournante qui permet d'avoir un endroit où on met tout ça. Et puis, on s'est dit qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui étaient bien. Et on a réfléchi à une forme pour pouvoir prendre de temps en temps des récits des 24 heures. C'était ça l'idée de base.
Ouais, et puis on avait aussi une réflexion, parce que moi je me souviens de l'époque où on a commencé à réfléchir à la collection 24, il y avait aussi une réflexion marketing, parce qu'il faut savoir qu'on est un peu des
branles,
mais on a quand même parfois des espèces de moments où on se dit mais il faut qu'on fasse les choses bien. Et donc on avait une espèce de réflexion marketing.
Faire les choses bien, ça veut dire gagner de l'argent par exemple.
Voilà, par exemple être rentable et tout ça. Et donc on a dit... Mais si on fait une collection 24 et qu'on sort, ça va nous permettre de faire très facilement des bouquins très rapidement et de gagner de l'argent très facilement. Et du coup, on va pouvoir payer les autres livres plus facilement. Et tout, voilà, ça va régler tous nos problèmes et tout ça. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte que la collection 24, ça nous prenait un temps dingue. Que même si, si certains récits étaient existants, ça nous prenait beaucoup de temps à mettre en page, de correction et tout ça. Et qu'en fait, vendre de l'agrafé à 5 euros en librairie, c'est pas une bonne idée, quoi. Les libraires, ils sont pas super contents d'avoir de l'agrafé. Les lecteurs, ils sont pas super contents d'acheter un bouquin à 5 euros. Ils préfèrent acheter un bouquin à 30 euros, mais qui a 600 pages, qu'acheter un bouquin à 5 euros qui a 24 pages. Donc ouais. Voilà, du coup, on s'est embarqué là-dedans et je pense qu'on s'est super fort amusé sur chaque série, parce que chaque série est assez différente. Ça nous a permis de publier des gens qu'on n'aurait jamais publié avant. On les imprime par 4 en même temps pour une question de budget. Mais comme c'est que 24 pages, on a pu faire appel à des gens voilà, qu'on n'aurait pas contactés pour des bouquins. On a pu vraiment faire un boulot d'auteur, un boulot d'éditeur en disant avec ce gars-là, on aimerait vraiment bien bosser. Et donc, par exemple, dans la dernière série, on a Ron Régé Jr., qui est un auteur américain que Stéphane adore depuis longtemps, que moi j'adore depuis longtemps. Et on l'a contacté en disant, mais on a cette collection, est-ce que tu aurais un récit? Est-ce que tu serais intéressé? Et voilà. Donc on a, dans la dernière série, un de ses récits à lui. Et on a un récit, entre autres, de Cédric. Je ne sais pas si Cédric peut dire un mot sur son récit.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, finalement, vous êtes un peu détaché des récits générés par les 24 heures, parce que finalement, c'était un support très chouette pour aller vers
ça, c'était prévu dès le début. On s'est toujours dès le début, on s'est dit, si jamais il y a un récit qui rentre dans ce format, de toute façon la collection est ouverte. C'est pas que pour, c'est pas restrictif.
Et c'est vrai qu'un des trucs chouettes de cette collection, c'est comme vous disiez, maintenant ça fait un petit moment qu'on retrouve pas forcément les membres de l'employé au catalogue, en tout cas, enfin récemment. Et du coup, on retrouve dans cette collection 24. La plupart des éditeurs de l'employé du mois.
Tous les éditeurs de l'employé du mois. À part Mathias Rosès, qui n'est pas dessinateur, mais qui, par contre, a donné des coups de fouet à Olive Bouger pour qu'il fasse un 24. Il s'est occupé, c'est 6-24 et griffes, grâce à Mathias. Donc il a quand même fait son boulot.
C'est vrai que là, on s'est fait un peu plaisir, entre guillemets. On voulait absolument, parce qu'on boucle cette collection, on en fait 24. C'est quand même génial. Et non, mais c'est vrai, c'est joli. Et donc, on voulait boucler et on s'est dit, ça serait quand même bien qu'on ait tout le monde. Quoi. Donc, on a insisté pour que Bertrand Panier fasse un récit et Cédric Manche fasse un récit.
Pulu fasse un récit.
Pulu. On est très contents parce que c'est un peu un retour aux sources. On parlait des débuts, on s'éditait, qui on éditait, on s'éditait nous. Et puis, les choses ont changé. Et puis là, ça fait plaisir de faire ça.
Et donc là, dans cette dernière salve, on a Bertrand Panier, Philippe Van der Heijden et Cédric Manche. Comme tu es là, Cédric, est-ce que tu nous parles, Lucie Castel, évidemment, tu nous parles un peu vite fait de...
Vite fait. Disons que ça fait au moins 15 ans que je promettais une histoire, un bouquin à l'employé du mois. Et là, comme la collection se termine, on m'a un peu mis un couteau sous la gorge et j'étais obligé de saisir la balle au bon. Donc plutôt que de rééditer des pages d'un 24 heures, etc., je me suis dit je préfère essayer de créer quelque chose de nouveau. J'ai mis deux scénarios à la poubelle et puis finalement je suis arrivé à un truc qui pour moi faisait sens. En fait, c'est un récit qui est inspiré par la paternité. Et par des choses que j'ai observées autour de moi, donc c'est pas autobiographique, mais en gros le sujet c'est le fait d'être complètement transformé par la paternité et de réagir peut-être pas toujours comme on pourrait l'imaginer. Sans trop dévoiler l'histoire, en fait le personnage, on découvre un personnage qui semble un peu cloîtré dans un grenier, comme une espèce de vagabond comme ça. Et petit à petit, en cours de récit, on comprend qu'il est en fait en train d'observer une femme et un enfant en dessous de lui. On peut se demander si cet enfant est le sien, etc. Je vais peut-être pas trop dévoiler, mais...
tout spoilé.
Voilà, ça prend un peu la forme d'une sorte de conte pour moi, en fait. Une espèce de... Oui, c'est ça, une sorte de conte. Dans lequel je crois qu'il y a pas mal... Il y a moyen de pas mal se projeter, Il y a plusieurs grilles de lecture, donc je vais pas trop en imposer une. Je préfère que... Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose.
Non, mais on glisse entre parfois ce qu'on a l'impression d'être un rêve, peut-être. On ne sait, c'est pas comme tu aimes bien le faire, c'est pas clairement dit. Mm-hmm. C'est pas genre on va pas mettre, comme on dit souvent, en rigolant, des petites cases qui ondulent pour dire maintenant c'est un rêve. Donc, on ne sait pas très bien toujours si on est des fois dans un rêve, si c'est fantasmé, si c'est donc le fantasme du personnage, si c'est la réalité. Et donc, il y a des visions d'un seul coup comme ça qui dérapent dans le récit. Ça, c'est assez chouette. Et c'est vrai que dans l'expérience d'être parent, je pense que tous les parents se retrouvent là-dedans. Il y a beaucoup de rêves fous qui apparaissent, de choses comme ça. Donc, ça, c'est du vécu. Et donc, ça parle un peu, je pense, aux parents à ce niveau-là, parce que c'est... Tous les gens qui ont eu des enfants, en général, ont leur fantasmagorie qui explose à ce moment-là parce que ça réveille plein de trucs et il y a plein de choses qui s'activent au niveau de l'inconscient. Ça parle un peu de tout ça, en fait.
En 24 pages.
Ouais. Alors, finalement, c'était assez dur de rentrer dans les 24 pages après coup. Mais bon, voilà.
On attend le roman graphique. Hein.
Oui, c'est ça.
Bah, donc, la saga de 10 000 pages d'Heroic Fantasy, c'est promis.
C'est dans 15 ans.
Ça, ouais. Mais tu peux faire des tomes. Hein, si
2027, tu veux étaler, hein. 2027, la saga Heroic Fantasy, 10 000 pages. Ça, c'est prévu. Ça, c'est...
Alors, pour parler de choses récentes au catalogue, ici, on a abondamment parlé de la BD Mutin d'Antoine Cossé, parce que ça avait fait l'unanimité au niveau de l'équipe. Est-ce que Max, par exemple, ou Stéphane, pourrait parler un peu du Tueur de Mustique de John Porcellino?
Alors, par où vous commencez? En fait, donc, moi, j'ai un rapport assez particulier au boulot de John Porcellino, parce que c'est un auteur qui fait du fanzine depuis plus de 20 ans maintenant, un fanzine qui s'appelle King Cat, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est un auteur qui a toujours fait de l'autobiographie. Et malgré la simplicité de son dessin, il y a un truc très... poétique et très métaphorique dans la manière dont il écrit. Et donc, il raconte des choses qui, en apparence, sont super simples et qui... Donc, il y a quelque chose qui émane de ça qui fait plus. Je ne sais pas comment expliquer trop ça, il faut juste le lire. Et moi, ça m'a beaucoup... quand j'ai découvert ce boulot, ça m'a beaucoup influencé sur la simplicité et la facilité avec laquelle il travaille. Quoi.
C'est le haïku de la bande dessinée.
C'est un peu le haïku de la bande dessinée, exactement. Merci Sacha Guer qui me sauve.
Et, très juste.
Ce qui est intéressant dans ce boulot, je pense que ça résume assez bien l'employé du mois, c'est que le bouquin commence, c'est étalé sur 10 ans, et en fait on suit l'évolution de son dessin, et donc il a un dessin qui est vraiment, vraiment tout pourri au début, mais... Même si c'est tout pourri, en fait, ça fonctionne et il y a quelque chose qui se dégage de ces scrabouchas un peu maladroits. Et au fur et à mesure du bouquin, son trait s'affine et ce qu'il raconte s'affine aussi. Et en fait, je pense qu'on a... Pour moi, c'est vraiment propre à l'employé du mois. On a toujours voulu mettre en avant le récit et quelque chose qui fonctionne en tant que récit. Et après, l'emballage du dessin est moins important, quoi. Moi, je suis arrivé dans l'employé du mois 5 ans après la création de la structure officielle. Et je suis rentré dans l'employé du mois grâce à David Liebens, parce que j'ai découvert son boulot. Et ça a été une énorme claque pour moi, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le boulot de David, c'est un boulot assez tremblant, une espèce de Razer sous Alzheimer bizarre. Et d'avoir découvert ce dessin et la puissance des récits de David Liebens, je me suis dit, mais en fait... voilà, moi, je me suis toujours senti nul en dessin. Et le fait de lire ça, je me suis dit, mais en fait, je peux, avec mes mini-moyens, je peux raconter des choses puissantes quand même. Et je pense que la plupart des récits de l'employé du mois, c'est ça, c'est avec certains moyens, arriver à raconter quelque chose de puissant. Et voilà, donc pour les 15 ans, on sort John Porcellino, qui, je pense, est la bonne image du catalogue.
Oui, si on pouvait être plus exact, on dirait que Porcellino, c'est un peu le Diogène de la bande dessinée, puisque c'est quelqu'un qui s'est débarrassé peu à peu dans son boulot de superflu pour arriver juste à une forme d'ascèse d'un côté et à la fois d'épure de l'autre. Donc, pour ceux qui connaissent son boulot sous la forme la plus récente, c'est vraiment un dessin très rond, très léger et des histoires qui sont vraiment très évocatives. Moi, je me souviens avoir lu, d'avoir hurlé de rire en lisant des récits dans lesquels il raconte qu'il a perdu un canif. Donc ce type peut faire une histoire dans laquelle il arrive à rendre sensible le fait d'avoir perdu un canif et d'en être triste et de le retrouver finalement dans l'étui de sa guitare. Et donc tout le parcours, un peu comme dans Phase 7 de Alec Longstreth, tout le parcours de Tueur de Moustiques, c'est de voir comment il arrive à cette ascèse en jetant tout ce qui est superflu pour arriver un peu à la fin à des choses qui sont incroyablement épurées. Voilà, c'est un assez chouette livre en effet.
Vous n'allez pas dire le contraire. Alors, il nous reste quelques minutes. Et alors, la question fatale, c'est le futur de l'employé du mois, point d'interrogation.
Mais on arrête après l'expo. Non, c'est pas... Ah non, 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 non. Le futur, je sais pas, on n'a pas prévu de choses. J'ai l'impression, je pressens, mais on va en parler, que peut-être après la collection 24, on va repenser à quelque chose, encore une idée géniale, fumeuse, pour faire plein d'argent, mais qui ne marchera pas. Peut-être une autre collection, pas cher, parce que c'est quand même sympa d'avoir un moyen, en effet, d'éditer des choses qu'on aimerait éditer ou prendre un peu des risques sur certaines choses. Et faire des livres, ça coûte cher, ça se vend pas forcément bien, ça devient toujours de plus en plus compliqué. Donc si on a cette petite porte, ça peut être sympa. Donc peut-être qu'on va réfléchir à ça. Et puis on va continuer à faire des bouquins.
Ouais, moi je me souviens que la collection 24 est née après une espèce de team building qu'on avait fait à la mer. Je me souviens que l'équipe était un peu en crise, on ne savait pas très bien où on allait, il y avait de l'énergie qui baissait. C'est le moment où Claude a dit « Ok, moi je vais faire un pas de côté et sortir et je reviendrai quand il y aura un building à construire ». Et Berthe a aussi lui dit « Voilà, je fais un pas de côté et s'il faut faire de l'animation radio, je serai là aussi ». Et donc, on a dit « Qu'est-ce qu'on fait pour relancer ? Comment on revient aux sources ?» Et on a dit il faut faire une collection légère, quelque chose qu'on puisse faire facilement et dans lequel on puisse publier des gens qu'on aime bien, vite, sans trop prendre de l'énergie. Bon, pour l'énergie, la vitesse et pour l'argent, comme la rentabilité, on s'est planté. Mais en fait, c'était un vrai projet et qui nous a réunis, qui a relancé la structure. C'était l'occasion de réaffirmer qu'on était bien ensemble, qu'on avait envie de faire ce boulot et que l'argent n'était pas le moteur central. Et donc ici, j'ai l'impression qu'on reboucle la cycle et que donc là il y a ces projets qui arrivent et pour ma part on parlait tout à l'heure du fait de se rendre à l'évidence mais un peu sur le tard qu'en fait on est éditeur et l'année 2014 a été un peu marquée par le fait que je voulais publier le Josh Simmons et qui finalement a été fait par Tanibis et finalement être éditeur c'est aussi se dire ah putain ce bouquin est bien et ce serait bien que ce soit nous qui puissions le publier en français ou découvrir un boulot et dire tiens est-ce que vous ne trouverez pas qu'on le remploie et c'est le genre de choses que je réfléchis toujours aussi de manière assez lointaine et c'est peut-être le moment où on peut se dire plus facilement ce genre de choses maintenant, puisque la structure a pris un peu de l'étoffe, du poids, et que à la fois des projets légers et à la fois des projets un peu plus avancés sont possibles.
Ouais, et j'ai l'impression qu'on a 1 milliard de projets de bouquins dans le très lointain, comme ça. Mais alors, par contre, fin 2015, début 2016, on a Stéphane Noël qui va faire son premier bouquin à l'employé du mois. Donc, il nous promet ça depuis 15 ans. Moi, j'étais pas là au début, mais il paraît qu'il disait déjà je vais faire un bouquin. Et là, il est en train de faire un livre qui s'appelle L'Aim, qui sortira. Et bon, ça va être. Top,
il a fait un bouquin, il a fait un 24.
Hein. Oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Ok, peut-être qu'on va arrêter là-dessus. Je crois qu'on a un peu tout dit. Merci, les gars. C'était très chouette de vous avoir. On a hâte de voir cette expo. Alors pour les gens quand même qui nous écoutent, donc c'est une expo qui aura lieu pendant le Festival d'Angoulême. Alors les dates précises, c'est quoi les gars ?
29 janvier, 1er février, au Musée du Papier, rue de Bordeaux, je ne sais plus.
D'accord.
À la Maison du Papier.
Musée du papier.
Et c'est en face du gros musée d'Angoulême, là où se trouvent les grosses planches, etc. Il faut juste traverser la rue.
Et pour ceux qui ne seront pas à Angoulême, on va essayer de faire tourner cette expo un peu, en tout cas à Bruxelles.
Mais a priori, c'est prévu à Bruxelles, non ?
Ouais, a priori, mais c'est moi qui ai dit ça.
Ah, d'accord.
A priori, avec des guillemets de chaque côté.
Non, Philippe, qui n'est pas là ce soir, a l'intention de la faire un minimum tourner.
Je pense qu'on va tout faire pour que cette expo tourne, parce que ça serait...
On n'a pas l'endroit pour la stocker, donc de toute façon, il faut qu'on la fasse tourner, il n'y a pas le choix.
Ok, l'appel est lancé. Eh bien, alors rendez-vous pour ceux qui seront à Angoulême dans quelques jours, la semaine prochaine, pour découvrir tout ça.
Ouais, 2 semaines. Ouais.
Et puis, longue vie à l'employé du mois. Et puis, merci d'être venu.
Merci, merci à toi.
Plaisir.
Merci, Radio Grand Papier.
Ah oui, et la prochaine émission, le 25 février. Voilà, à bientôt.
À bientôt.
Thank you.